C'est la bande originale,
mais oui, tellement. Avec les lacs de Moudadji, avec Morgane Guéguignan, Paul Mirabel, Tanguy Pasturo sera là tout à l'heure, Daniel Mora et notre invité Arnaud Ducreux. That's Life, c'est sa vie qu'il nous raconte sur scène, retour sur scène pour un nouveau spectacle au Théâtre de la Gaîté Montparnasse. Arnaud Ducreux sera donc avec nous.
Il s'est fait plaisir sur l'affiche. Il s'est fait plaisir.
Ouais. Michael Jackson.
Beau gosse.
Écoute, il y a un côté...
Beau gosse.
Y a un il est fan.
Ah, beau gosse, il l'est. Il n'y a pas de...
Non mais là, il accentue.
Il n'y a pas de Photoshop.
Il accentue.
Bah, qu'est-ce qu'il y a, Daniel?
On dirait un petit peu Dean Martin, un petit mélange aussi avec...
Il y a un gros clin d'œil à Michael Jackson.
Moi, je pense Michael Jackson, ouais, c'est ça.
Il dansait dans le premier spectacle, il dansait, il est hyper fan et tout.
Je pense que c'est l'envie d'uriner, parce qu'il il a les jambes très croisées et le sourire est coincé.
Tu sais quoi? On va lui demander directement.
Ah, il est là.
Non, c'est l'envie d'uriner.
Ça sera plus simple. Attention, c'est le blind test.
Daniel.
Ouais.
Life is life.
Moi, je suis beau.
Là. À la version live.
Qui chante, là?
Je sais plus comment il s'appelle. Opus.
Ils ont un autre club ou pas? Ouais.
Non, ça va, on l'a fait hier.
Je me demandais juste.
J'y vais notre rédacteur en chef qui dit alors, c'est toi, redis-moi un moustache, coupe mulet, il me dit des Autrichiens, j'ai 45 tours.
Ah, mais c'est lui, hein, c'est lui. Hein.
Qui chante ça?
Leïla, Dizri.
Là, ça va vite, hein. Mais ça met tellement la banane. Enfin, sauf à Paul Mirabel, mais sinon, c'est...
Je suis trop content.
Ah, toi aussi, t'as bien ?
Ouais.
Un point pour Daniel, un point pour Leïla. Qui chante ça ?
Leïla.
Oui.
Life to Mars. C'est beau, oui.
C'est pas Life on Mars.
Et là, Life on Mars.
Et là, Tanguy Pasturo va regretter de ne pas avoir été là. Qu'est-ce que c'est bon ça? C'est inspiré Hervé Villa aussi un tout petit peu.
Attention.
Comment?
Hervé Villa aussi.
Si. Ah bon?
Non. C'est comme une illusion qui meurt. C'est le même début que Life of Mars. Pareil.
Ah ouais.
Ah,
ouais.
Ah oui. Morgan, d'ici Amy McGowan.
Joli.
C'est Shakira qui est sortie.
Tu es imitatrice.
Shakira, c'est entre Shakira et...
Non, voilà. tu le tiens bien.
Vas-y.
You're gonna go. C'est vraiment Shakira.
Ça se voit bien.
Non, c'est pas vraiment Shakira, ça reste non, toi qui
sais. Oui, c'est vrai.
C'était Shakira.
Oui, c'est vrai que je remplis pas les élytres encore.
Shakira, oui.
Shakira.
Ah, Leïla, The Sunshine of My Life.
Joli.
Bon, j'ai plus le prénom. Bah, parti.
J'ai dit Leïla,
si, elle a dit.
Non, t'as pas dit dans ta tête, tu l'as dit.
Non, elle a dit Leïla. C'est toi dans la tête.
C'est moi qui t'ai fou.
Ouais, voilà.
Très bien, autant pour moi. Je veux Arnaud Ducreux.
Assieds-toi un peu, Daniel.
C'est Shakira qui rebondit en dehors.
Qu'est-ce que je fous là? J'ai une carrière à gérer.
Vous avez...
Oh, non, oui,
reste ici.
Reste là, t'es bien.
Il y a forcément live dans le titre. Vous l'avez compris.
Oh, oui. J'entends pas.
Oui.
In deep.
Oui. Oh. It's not a problem, I can fix.
C'était pas le banco, hein.
Non, je préviens, je suis pas fou.
Tu vois, si Arnaud Ducreux était là, il danserait là-dessus.
Ah, on me dit en régie que tu n'as pas dit Daniel.
Ah,
dis dans ma tête.
Attention. Ah, c'est pas le break. C'est dans le break.
On attend
le
break.
It's not a problem, I can fix. Moi, je m'en fous, j'attends le break. La version a fait 18 minutes, je pense. Attention, c'est le super banco, il y a live dans le titre.
Frank Sinatra. Oh, Daniel, pardon. J'ai tout dit dans le désordre.
Ah ouais.
Je l'attendais un peu.
Moi, je m'attendais à Evanescence.
Je peux pas faire autrement.
Bring me to life.
Je peux pas faire autrement.
aurait pu mettre Evanescence.
Oui.
C'est un truc de notre génération, ça.
Quel clip.
Daniel remporte le blind
ah, quelle originalité.
Ah ben il marche même plus mon...
Il même pas
ah tiens,
tout.
Donc.
Mais tout est contre moi.
Il veut plus, ouais. Bon, ouais. Ah voilà. Si, ça, ça marche, mais pas, écoute, pas la
c'est
victoire, je suis désolé, mais elle est quand même validée. Et merci d'accueillir
la bande originale avec Nagui.
Tout est parti là-dessus.
That's life.
Bonjour Arnaud.
Non, bonjour, bonjour.
That's life.
Ouais. Alors, non, mais c'est parce que j'étais au resto juste après le spectacle, on cherchait un titre.
Sur autoroute?
Non, à Rouen. Je joue à Rouen et au resto et je sais plus qui me dit à un moment, ouais, mais ça parle de ta vie, mais en même temps, c'est un peu la vie de tout le monde. Quand je joue le personnage âgé, moi âgé dans un EHPAD à la fin du spectacle, je me dis, en fait, c'est la vie, le temps qui passe vite. Et comme j'aime beaucoup Frank Sinatra, je me dis, that's life. Et j'ai, voilà. Je me suis dit, tiens, ça va être bien, that's life.
Donc, on s'est demandé si, l'affiche était un clin d'œil à Michael Jackson, un clin d'œil à une gamme de produits de beauté, un clin d'œil à Arnaud Ducré qui a envie d'uriner d'après Daniel Morin.
Non, mais c'est parce que tu sais le Pascal Ito d'ailleurs qui est un très bon photographe que j'embrasse qui a conçu aussi l'affiche et qui a fait la photo et je me suis mis en mouvement et voilà et tout d'un coup on regarde on se dit ah tiens il est pas mal ce petit mouvement là et voilà et on
c'est vrai aussi simple que ça
aussi simple que ça on a dit enfin ceci dit aussi simple que ça on est arrivé à un moment où cette photo était bien avec la cravate qui part un peu comme ça et à la fin ça a terminé où les mecs m'avaient mis un fil de nylon qui tirait un fil de pêche qui tirait la cravate. Ça a duré des heures pour en fait revenir sur cette photo qui a été faite naturellement et je dis mais voilà c'est bon arrêtez avec vos trucs de bricolage
mais ce que j'adore dans les séances photo aussi c'est quand le photo a fait 3-4 photos et il dit super on en refait une
je dis bah oui c'est ça ouais.
Bah non
ouais.
Parce qu'elle est super
la première est géniale c'est mais ça. Je vais peut-être en faire une autre. Eh bien,
That's life. Ça vous démangeait de revenir sur scène. C'est ce qu'on ressent. En tout cas, ce sont même les premiers mots que vous prononcez avec le plaisir de renouer avec cette scène. Des allusions faites aux différents rôles que vous avez incarnés dans des fictions, au cinéma, en précisant à chaque fois d'ailleurs, ce sont des rôles, ce n'est pas moi, ce n'est pas ma vie. Des références qui sont faites.
C'est de la fiction.
Ouais, c'est ça. Des références qui sont faites. J'imagine aussi au quotidien des gens qui vous croisent en vous disant.
C'est-à-dire que je l'ai vécu. Vendredi dernier, pendant le spectacle, j'ai fait une série qui s'appelle, vous savez, Mensonges.
On a reçu Audrey Faure aussi pour en parler.
Voilà. Chirurgien,
énorme carton.
Chirurgien est soupçonné, présumé soupçonné violeur de viol. Et là, je dis, je vous jure que c'est vrai, dans le spectacle, à un moment, je dis, il s'est tellement passé de choses pendant ces 5 ans. Vous savez ce qui m'a le plus manqué? Et là, il y a une fille qui dit le viol.
Mais comme non, ça. Quelle horreur.
Et là, je fais, espèce de blanc dans le
moment.
Je dis, attendez, je vais expliquer pourquoi vous parlez de ça. Ça n'a rien à voir avec vous. Elle me fait, non, je fais, d'accord. Donc, déjà, ça, c'est bon.
Il faut que tout le monde ait vu la série pour comprendre cette intervention.
Et l'autre fois, je vous jure que c'est vrai, je suis dans la rue avec mon fils. Et il y a une fille je tourne la tête au feu rouge, on allait au passage piéton. Oscar, mon fils. Je tourne la tête et elle me regarde, elle me fait, le violeur.
Waouh.
Ah ouais. Et là, j'ai fait, mon fils était un peu plus petit, donc il a pas entendu. Mais, je me suis dit, ah ouais, quand même.
Donc, les gens sont particuliers.
Ah, mais les gens ne font pas des fois
après, ils pourraient vous dire papa, parce que vraisemblablement, quand vous avez fait pas mal de tournées, vous avez un peu essaimé à droite à gauche.
Non, c'est dans le spectacle, arrête.
Oui, je confonds
on sait pas.
Je sais pas, moi.
J'ai démarré le spectacle, j'étais célibataire, donc, il s'est passé, c'était un peu la fête du slip dans les hôtels.
Voilà. L'une des répliques que vous ouvrez.
Ça peut y être le titre de cette émission.
La fête du slip. Donc, c'est la vie d'Arnaud Ducré comme ça. That's life. C'est sa vie racontée avec une part de rêve aussi à la fin. Un moment très émouvant aussi de dialogue avec votre fils. Les enfants sont présents. J'ai envie de dire pas que les vôtres. Mais les enfants sont présents dans ce spectacle. Votre femme aussi. Votre mère aussi. Mm-hmm. C'est-à-dire que c'est zéro limite. Je me demande comment réagit votre maman et sa bouteille de rosée. Comment réagit votre femme Claire avec sa maison. Mais on va en parler. Vous aurez un droit de réponse. Vous aurez un droit de réponse.
Mais ils en ont eu un aussi. Hein.
D'accord, très bien. That's Life, Arnaud Ducré, le nouveau spectacle, c'est au Théâtre de la Gaîté Montparnasse à partir. Ça a déjà commencé.
Ouais, c'est parti là.
Mais c'est incroyable.
Ouais, on est content. Ça y est, ça a démarré jeudi dernier. Ah. Et là, je joue demain soir. Je redémarre demain soir.
Très bien. Et puis ensuite, on tourne partout en France. On va continuer d'en parler avec vous. Évidemment, on est ravis de vous recevoir.
Je suis marié maintenant, Nagui. Donc ça sera plus la fête du slip. dans les hôtels.
Ça n'empêche pas.
Ouais. Oh, la libye du mariage pour pouvoir partir en tournée, c'est moche.
Ouais. C'est moche. Tu connais le dossier.
Ouais, ouais. Il y a une vanne faite sur Eric Antoine, c'est très très moche. Voici Morgane Gagnant qui ne vous aime pas. Restez assis.
Non, Arnaud Ducret, je vous aime pas déjà par principe parce que je n'aime pas les autres humoristes. À part Paul Mirabel, parce que franchement, regardez-le.
Oui.
Oh là là.
Si
t'aimes pas Paul Mirabel, c'est même pas la peine d'aller faire un électrocardiogramme, quoi. Tu sais que t'as pas de cœur qui bat. Quand je vois Paul arriver le matin, j'ai même plus envie de faire l'émission. J'ai envie qu'on se mette sous un plaid et qu'on regarde Vaiana. D'ailleurs, Paul, tu m'expliquais que toutes les autres meufs te disent pareil et que du coup, c'est un petit peu le problème. Mais Arnaud, j'ai pas envie qu'on aille sous un plaid déjà parce que vous faites 1m90 et que c'est toujours hyper pénible. Le temps de trouver le bon sens pour que vos pieds dépassent. On va louper la moitié du truc. Du coup, je le fais avec Nagui. Nagui, format parfait pour un plaid. Donc, j'ai regardé votre spectacle seul. Vous jouez votre nouveau spectacle That's Life et arrêtez de mettre les trucs en anglais, s'il vous plaît, pour vous la péter. That's Life, The Artist, ça va bien. On est en France, ici. Et dire cette phrase à la radio en année électorale, ma peau vient de perdre de teinte. Mes cheveux tirent vers le blond. Leïla, t'oublie pas ce qu'on s'est promis cet été, un soir de pleine lune. Si je tire trois droites, tu m'abandonnes en forêt. Fontainebleau, Rambouillet, j'ai quand même le droit à un abandon CSP+, mais tu m'abandonnes. Arnaud, ça fait 4 ans que vous n'étiez pas monté sur scène et vous avez décidé de revenir avec un spectacle super intimiste. J'ai lu en interview que vous aviez vraiment ce désir de raconter votre vraie vie. Mais quelle impudeur, franchement. Ah, oh, ça me débaisse. Est-ce qu'autour de la table, vous m'avez déjà entendu déballer mon intimité comme ça?
Oui, je crois.
Je faisais l'amour avec Gilles Lelouch.
Non, mais d'accord. Ça, non, mais ça, je veux dire, c'était...
Je sais pas ce que j'ai aujourd'hui. Je sais pas si c'est parce que je couche depuis une semaine avec Michel Field.
Non, mais c'est pas pareil, en fait.
Je suis endormie bourrée sur ma bouillotte.
Bon, forcément. Non, mais si on sort les choses de leur contexte.
Message à ceux qui voudraient m'envoyer des chocolats, des fleurs, des cadeaux au 22 rue du Poteau, 75 018 Paris, 1B45, bâtiment 1, 5e étage.
Ça va. En même temps, vous, c'est normal. Vous devez avoir pas mal de choses à raconter parce que votre biographie, Arnaud, c'est la foire fouille. Y a de tout. Choriste de Nana Mouskouri à la Star Academy, des programmes courts, des films, des one-man shows, du beatbox dans le Big Deal de Vincent Lagaffe. Je comprends qu'après, on se sent un tout petit peu perdu. Vous avez même été choriste dans un groupe de gospel. Et ça, par contre, ça, c'était mon rêve à moi. Choriste dans un groupe de gospel, mais j'ai jamais eu le droit de le faire. Apparemment, le but du truc, c'est quand même que les gens continuent de croire en Dieu après. Tant pis. Moi, je vous ai découvert dans votre one-man show, je me rends. C'était en 2012, c'était un show survolté. Vous imitiez Michael Jackson, dont vous êtes un grand fan. Et là, vraiment, ça nous fait un point commun. Parce que moi aussi, vous dites en interview que c'est une de vos idoles, Michael, qui vous a appris à vous servir de votre corps. Macaulay Culkin aussi, et il a pas envie de faire de spectacle derrière. Mais moi aussi, je suis hyper fan de Michael Jackson, mais vous avez vu depuis le documentaire, c'est hyper dur pour nous. Hein. Ouais. Franchement, dans une soirée, dès que tu mets Bidit pour kiffer un peu, faire le solo de guitare sur un manche de serpillière, tout de suite, ça part en débat pour ou contre la pédophilie. Pour ou contre la pédophilie, et c'est insupportable, cette société où on doit avoir absolument un avis sur tout. C'est a priori contre, mais en même temps, j'ai pas testé. Mais bon, bref, faut ouvrir sa gueule. Donc, that's life. Bonne émission.
Wow. Merci, Morgane.
Et Morgane, on te retrouve en spectacle du jeudi au samedi à 20h au Métropole Théâtre.
Et le dimanche à Folie Bergère à 18h.
Oh, 18h Folie Bergère.
Absolument.
Il y aura un monde.
On sera 79 sur scène.
Mais c'est ce que je veux dire.
Dans la salle.
Théâtre et Gaîté Montparnasse, ça a commencé. Puis ensuite en tournée en France avec en janvier Maison Alfort, La Rochelle, Nantes, Le Mans, Rennes, Angers, Saint-Raphaël, hier Aix-en-Provence, Le Havre, Lyon, Biarritz. Partir en tournée, c'était aussi une... un, monter sur scène, deux, partir en tournée, c'était deux plaisirs que vous vouliez vous offrir.
En fait, quand j'ai fait les Marrakech du Rire, avec Jamel, on a fait un sketch, et j'étais après à Avignon, et Jamel m'appelle et il me dit, il voulait qu'on bosse sur des trucs ensemble, et il me dit, tu sais Arnaud, n'oublie jamais, ne lâche jamais ton spectacle, ton one man, c'est ce qui te lie avec les gens. Il m'a dit, si tu fais un film, j'avais écouté ce qu'il m'avait dit, mais après j'ai compris. Mais si tu fais un film qui marche, c'est la cerise sur le gâteau. Si ça marche pas et que t'as ton one man à côté, c'est ce qui te tient en lien et artistiquement avec les gens et tu vis artistiquement. Et j'ai compris quand j'ai fait des films que entre mes films, il y avait un vide, il y a un truc qui me manquait et c'était entre autres le spectacle. Alors après, il a fallu que ça revienne, que j'ai eu envie de retourner, mais il y avait vraiment ce truc. Et puis plus ça allait, plus effectivement ça me manquait de ne pas être sur scène.
On a pourtant l'impression que vous n'avez pas le temps de respirer, de monter sur scène, vu le nombre de films, téléfilms que vous faites en 12 ans de carrière, 27
12 ans de carrière, on dit déjà ça, je suis content.
27, non mais 27 films, 9 séries, et 12 millions et demi d'entrées au cinéma. C'est-à-dire que plus d'un se contenterait de ça en disant, c'est bon, maintenant je vois venir les projets, je gère, je trie, mais vous, ça vous démange.
Bah, en fait, j'aime ça quand même. Moi, j'aime bien, j'aime le one man, j'aime faire rire, j'ai toujours aimé ça depuis que je suis tout gamin, en fait, faire rire les copains, faire rire la, voilà. Donc, c'est un truc qui
vous a donné envie d'ailleurs, parce que, on peut trouver des, j'aime pas les comparaisons, mais parlons plutôt de références que de comparaisons.
J'en ai une.
Vous pouvez vraiment enlever votre alliance, hein, très facilement. C'est-à-dire que la vanne sur scène fonctionne dans la vie. La vitesse à laquelle il a viré son alliance. T'as vu, Morgane? C'est un message, hein.
Des fois, je regarde, je fais merde, j'ai les doigts gonflés.
Ah oui, quand elle sort plus.
C'est ça.
Faut que je maigrisse.
C'est ça. Et en fait, non, la première personne qui m'a donné envie, c'est Albert Dupontel. Voilà. Ouais. C'est Albert Dupontel. Alors, j'aimais faire rire ma famille, tout ça. Mais c'est vrai que quand j'ai regardé Patrick Sébastien qui balance Albert Dupontel avec le sketch de Rambo, et là, je suis devant la télé et je prends une claque, quoi. Vraiment, je fais waouh! Et donc, ma mère m'achète les cassettes vidéo.
Vous avez quel âge? Je pense au moment où il est choriste de Patrick Sébastien.
Ah oui, c'est très drôle. Ah oui, choriste de Patrick Sébastien. Je me dis, c'est vrai qu'une fois, je me suis posé la question. Je me dis, mais le mec est juste choriste, donc il ne balance que les fins de phrases de Patrick Sébastien. Donc, ça m'a fait beaucoup rire, parce que quand on voit les chansons de Patrick Sébastien, j'aime beaucoup.
C'est ch'touille, hein, la chanson.
Ouais, il lui dit, ouais, c'est une chanson sur la transmission, sur le, c'est un peu, voilà, c'est un peu, ça dérange un peu, mais je lui dis, c'est quoi? Ça s'appelle ch'touille. 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 Okay. Et donc voilà, je pars sur le choriste de pas plus que l'anglais pas à deux. Donc, enlève ta montre, ça coince un peu. Et le mec, entre les prises, il découvre les paroles, il dit, c'est que ça. Ouais, ça m'a fait beaucoup,
hein. Non, mais c'est les choristes musiciens de studio aussi, les mecs, ils font, sont cachés, ils font ce qu'on leur demande de faire. Ils ont pas jugé artistiquement.
Et t'as le bassiste qui est là, cul, pipipipipipipura. Ouais, super, allez, on la refait.
Pour le plaisir. Donc revenons Albert Dupontel. Vous aviez quel âge quand vous avez découvert Dupontel?
Je ne sais plus, mais je devais avoir 10 ans, 11 ans, peut-être 10 ans, ouais. Et c'est vrai que quand il fait Rambo, là, je dis, waouh, c'est quoi ce mec, quoi. Et je me souviens toujours de ces plans où il arrivait au début du spectacle, on le voyait pas, il était hors scène. Ouais. Hors scène, putain, j'ai peur. Et il y va, et il regarde les gens, il fait, waouh, putain, le monde! J'ai dit, c'est quoi ce mec, quoi. J'ai trouvé ça extraordinaire.
Et de jouer avec justement les bruitages aussi, de s'amuser à faire des sa propre bande son.
Ça a toujours été mon kiff, ça, depuis que je suis tout gamin. Ah ouais, moi je suis un enfant de la télé, je suis un enfant de... J'ai toujours tout d'un coup, je sais pas, je regardais un truc à la télé, une guitare, je regardais des trucs, je vais aller une voiture, et puis j'ai essayé de faire les bruits.
Je me suis demandé si c'était pas de Funès, parce que la force de Funès c'était aussi dans son jeu, toujours de mimer ou de rajouter un bruit qui venait souligner, entre guillemets, le même mot. Et on se dit, ok, on a compris, donc il y a l'avion qui va arriver et qui va envoyer des balles, sauf que lui il rajoutait le avec la main qui vient taper sur le visage.
Mais je sais pas, mais j'aime bien juste avec un bruit, un regard, un mime, un truc que les gens tout d'un coup voient la scène. C'est ça qui me plaît, que tout d'un coup on se dit, voilà, il soit qui.
Et ça se travaille, vous vous entraînez à ça, ou c'est un don que...
Plus maintenant, j'ai jamais fait d'école de mime et tout, mais j'ai
des cours de danse, oui.
Oui,
l'école du bruit,
ouais, c'est ça. L'école du bruit. Non, mais tu sais que moi j'ai fait, je racontais des histoires, donc je raconte des histoires. Et tiens, encore dimanche, mon fils me fait, fais-moi une histoire avec à la bouche. Donc j'ai fait tout le truc. Je fais lui en chevalier, la mer, les dragons, l'orage et tout. Et il adore, et je lui fais toute une histoire, et il me dit, et puis tu dis que voilà, mon amoureuse c'est elle, puis je vais la sauver et tout.
Donc, et maintenant, c'est lui qui est l'auteur, et vous êtes le bruiteur.
Voilà. Et il me dit, j'adore. Je fais tous les bruits, je fais les bruits, et puis après il me dit, et puis donc maintenant, quand je le vois à côté de moi, des fois il est là, il fait. Puis je dis, Oscar, s'il te plaît, moins de bruit, quoi. Mais en fait, le gamin, il fait juste ce que j'ai toujours fait depuis qu'il est tout petit, quoi. Je fais des...
Et vos parents aussi disaient moins de bruit?
Ah ouais, ma mère, elle me disait stop, quoi. Je faisais la voiture de rallye, ça c'était, je me souviens, c'est vrai que maintenant, avec le recul, je prenais une assiette, j'étais tout en boucle dans le salon.
Pour faire le volant,
l'assiette. Et je faisais tout le truc, et là, ma mère, bon, elle m'a toujours laissé faire les choses, puis à moi, on faisait arrête, stop, je n'en peux plus.
D'où la bouteille de rosé.
Et alors, oui. Pourquoi vous la faites passer pour une alcoolique?
Non, ma mère, je dis après, elle ne connaissait pas une alcoolique.
Elle sait bien vivre.
Voilà, on est des bons vivants. C'est la catégorie juste avant.
La frontière entre les deux, elle est extrêmement drôle. Et vous rajoutez, dans la famille, on est des très, très, très bons vivants.
Quand j'ai présenté Claire à ma famille, c'est vrai que je lui dis, je te préviens, à 22h, tout le monde a la gueule un peu rouge. Elle m'a dit, ouais, mais tu n'avais pas dit qu'il clignotait. Non, non, mais parce que, en fait, c'est parti de là avec ma maman. Souvent, quand je prends l'avion, tout ça, je la connais, ma mère. Je sais qu'elle veut que je l'appelle à la fin. Même maintenant, j'ai 42 ans, elle veut que je l'appelle quand ça atterrit, j'ai atterri. Oui, je suis bien arrivé. Je pars en voiture, je la quitte, je vais aller habiter à Rouen. Je reviens à Paris. Tu me dis quand t'es arrivé. Hein. Je lui dis que je suis arrivé. Et donc, en déconnant, j'étais avec l'autre avec ma femme et je lui dis, je suis sûr qu'elle fait, t'es arrivé. Je lui dis, ouais, non, t'inquiète pas, je suis bien arrivé. Et là, je sens, des fois, elle raccroche pas toujours ma maman. Et là, je sens bien, je l'entends au loin, elle fait, bon, ça y est, bon, bah, écoute, ils sont rentrés. Bon, bah, voilà, tiens, serre-moi un petit coup de rosé, Patrick. Et c'est parti là-dessus, en fait. Et voilà. Et donc, je lui dis, ma mère finit ses phrases par serre-moi un petit coup de rosé.
Faut pas partir trop souvent, quoi, parce que sinon.
Ouais, voilà, c'est ça, exactement.
Bien pour votre mère. Toutes les vannes que vous faites sur votre épouse qui fait du pole dance, là aussi, c'est extrêmement drôle, avec une partie émouvante et drôle. Clin d'œil à Jean-Paul Belmondo, où vous racontez une anecdote où justement.
Je l'ai raconté parce que il venait de.
J'entends, mais c'est émouvant, et puis c'est aussi un clin d'œil à votre épouse, Claire.
Ouais, Claire.
Vous parlez de votre épouse, vous parlez de vos enfants, vous parlez de votre famille et autres cousins qu'il y a autour. On a l'impression que c'est zéro filtre, parce qu'on dit il peut pas l'inventer. Évidemment, on imagine, c'est une caricature, que tout ça, le trait est
grossi. Je tire les traits, ouais, c'est sûr. Je tire les traits, mais...
Et vous dites qu'ils ont eu un droit de réponse, c'est-à-dire...
Alors ma mère, quand je dis dans le spectacle, maman, j'ai dit, maman, elle fait, oh non, elle m'a fait ça. J'ai dit, tiens, maman, j'ai un sketch, tu sais, je veux dire que tu filmes. Elle me dit ça, mais, oh non, 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 mais je vais passer pour quoi? Je vais passer pour une alcoolo. Attends, auprès des collègues de boulot qui viennent te voir, oh non. Et puis, juste après, bon, serre-moi un coup de rosé, Patrick. Mais c'est vrai que ma mère, je lui dis, mais non, maman, tu vas voir, les gens, ils t'aiment, ils vont t'aimer, c'est une blague et tout. Et donc, ma mère est une femme intelligente, et donc elle m'a dit, non, mais c'est vrai, c'est drôle et tout, mais, oui, ils ont un droit de réponse. Il y a un truc que je dis à un moment sur Claire, sur la pole dance.
C'est violent.
Je lui ai demandé, parce que ça nous a fait rire, mais c'est elle qui m'a dit ne l'enlève pas. Je lui dis, même là encore maintenant, je lui dis, c'est sûr, j'ai l'impression qu'il faut que je l'enlève quand même. Parce que les gens, quand tu dis pole dance, tout de suite, on pense, voilà.
Ouais, ouais.
Voilà, fille facile.
C'est ça.
Et voilà. Et donc, je le dis dans le spectacle, un peu plus vulgairement. Mm. Mais c'est vrai, elle m'a dit, tout le monde pense qu'on est des prostituées, quoi, en gros, quoi. Voilà, quoi. Donc, elle m'a dit, garde-le. Je dis, bon, ok, je le garde, mais voilà.
Non, mais si
elle, ah, mais ça, bah ouais.
Si ça la fait rire, elle,
ah, ça la fait rire. Elle m'a dit, voilà. Mais non, tu ne devrais pas l'enlever. Je lui ai encore dit hier. Je lui ai dit, tu crois vraiment? Elle me dit, l'enlève pas. C'est bon.
Est-ce que vous avez enlevé, par contre, des vannes dans le travail de préparation de ce spectacle? Parce que j'imagine que ça s'affine en rodant le spectacle, d'ailleurs, près de chez vous. Est-ce qu'il y a certaines choses que vous avez faites et en disant, non, ça passe pas, ou vous
en fonction des réactions?
Mais là, encore, même maintenant, il y en a une que je vais enlever qui passe pas du tout sur ma tante, que Airbnb, je vais la retirer. J'ai trop de
sur la semaine et le week-end. La propreté.
Ouais, la propreté de ma tante. J'ai ça qu'elle est. Bon, c'est
semaine et week-end.
On l'appelle tata Airbnb. Voilà, c'est que ouais. quand t'arrives le week-end, tu sens qu'il y a du monde qui est passé la semaine.
Oui,
ouais, je sais. Mais dans la masse, j'ai beaucoup de Je me dis, je vais peut-être la retirer.
Et est-ce qu'à l'inverse, il y en a que vous pensiez n'était pas aussi drôle que ça, qui était juste pour faire du lien et qui d'un seul coup explose?
Bah ouais. Il y en a plein. Ouais, il y en a plein. Je sais pas là, mais par exemple, vraiment, je dis. Dès que ma femme voit une barre, elle peut pas s'en empêcher. Et les gens, ils pensent totalement pas du tout ce que je pense.
Oui, c'est vrai.
Ils pensent pas du tout ce que je pense. Alors que moi, je pense au métro. Je dis, bah, quand t'as pris le métro, c'est plus la même. Ce que eux pensent pas du tout à cette barre-là, en fait. Par exemple.
Félicitations.
Non, mais
c'était ambigu quand même.
Bah oui, mais j'ai sur le coup, je
ne l'ai pas pensé.
Mais pas du tout. Je l'ai balancé comme ça, et après, j'entends les gens rire, mais je fais, bah, ah oui, d'accord, ok. Effectivement.
Alors, comment vous avez, et vous le citez d'ailleurs à la fin du spectacle, co-signé ce spectacle avec Tom Villa.
C'est grâce à vous d'ailleurs.
Qu'est-ce qu'on a fait?
Parce qu'en fait, j'étais ici. C'était alors Tom, je le connaissais parce qu'il avait travaillé avec Jérôme Commandeur et j'adore Jérôme. Mais Tom a beaucoup de talent. J'ai vu aussi son One Man et tout. Et puis chez vous. Puis juste après le premier déconfinement, je faisais la promo de Divorce Club.
Exact.
Et donc il était là et il fait un papier et puis je l'écoute, ça me fait beaucoup rire, comme il est très drôle. Et je me dis, tiens, il serait bien ce mec pour qu'on puisse écrire ensemble.
Mais alors pourquoi avoir besoin d'un co-auteur? Je parle pas de Tom en question.
Ah, parce que j'ai besoin de.
Parce que ouais, c'est votre vie, c'est vos vannes. Vous dosez le degré soit de méchanceté, soit d'autodérision, en tout cas. Mais ça, c'est vraiment votre échelle de Richter de la vanne. Et comment une tierce personne peut décider pour vous de faire une vanne sur votre mère on peut faire ça, on peut y aller?
Non, mais comme dit Tom, à chaque fois, il me dit, c'est toi le patron, hein, si t'as pas envie de la mettre. On la met pas, hein. Donc il décide pas, mais en tout cas.
Non, je parlais des vannes.
Oui, oui. Non, mais en fait. Non mais
j'ai
besoin d'avoir j'aime avoir quelqu'un déjà pour échanger parce que j'ai déjà envie d'avoir quelqu'un devant moi qui rit et si se marre ça me plaît et puis tout d'un coup j'adore construire le spectacle avec je sais pas en plus si je serais capable de le faire seul en fait parce que je peut-être qu'effectivement je me dirais tiens est-ce que ça c'est drôle, je me pose peut-être trop de questions et tout d'un coup j'ai un mec devant moi qui me dit allez vas-y Arnaud on l'a fait, on la tente et c'est pour ça que j'y vais quoi.
Et puis même on le sent dans le spectacle et même quand vous êtes là pour venir ici vous êtes hyper actif.
Ouais.
Il y a ça aussi, il y a quelque chose qu'il faut canaliser.
Il danse moins. Vous dansez moins qu'au premier spectacle.
Ouais, c'est vrai.
Il y avait plus de danse.
Je fais le petit vieux qui danse, là, oui, c'est vrai, mais il y avait plus de danse, ouais. Ah oui, il y avait Dirty Dancing, donc je faisais.
Ah oui, carrément.
Oui, je faisais ça, oui. Je dansais beaucoup plus, mais.
Avec l'âge.
Ah ouais, c'est ça. Ça, je me suis dit ça l'autre fois, je suis monté sur scène, j'ai dit putain, j'ai l'impression que je suis plus fatigué qu'avant.
Ça faisait 5 minutes.
Bah, c'est ça.
C'est extrêmement drôle. Et puis
ça
en plus.
Ça vous ressemble à fond.
Non, mais ouais, ça ressemble à un peu. Il y a un petit bout de nous quelque part. C'est-à-dire, on peut avoir des repères. Qu'est-ce qu'il y a?
Ça va, Leïla?
Une bêtise?
Non, mais moi, le truc qui m'a fait le plus rire, mais ça marche toujours avec moi, c'est les P, quoi.
Ah ouais. Ah oui, les quatrièmes étapes de. Alors, vous savez que le P, c'est. Oh, j'ai quelqu'un qui m'a dit un jour, le P, c'est de rire.
J'ai
dit
les
excuses. Les excuses de Leïla. Désolé, mais quand ça pète, moi, ça me fait rire.
Non, mais parce que. Faut préciser que c'est sur les étapes de vieillissement. Je dis que j'ai 42 ans, j'en suis à la première étape de vieillissement qui est donc
le menu.
Le menu, hein, quand on vous donne un menu, t'es là, tu regardes, tu prends la bougie, tu n'arrives plus, t'es avec ton téléphone, c'est une catastrophe. Je deviens.
Sauf que là, en l'occurrence, sur le menu, le gars essaye de lire.
Le mec, je lis, et le mec il me dit ça c'est le QR code. Ah d'accord. et en fait, à la fin, je fais la quatrième étape de vieillissement. Je pense que tout le monde en a dans sa famille. Si t'en as pas un, c'est que c'est toi. C'est quand tu pètes en marchant et t'en as plus rien à branler. Et je fais tout le mec qui va voir les petits enfants. Ah Kevin, machin, voilà. Quoi. Et ça fait beaucoup. Mais c'est que le P c'est de rire, hein, parce qu'en fait tu regardes un enfant qui comprend pas ce que tu dis, qui ne sait pas ce que ses parents lui disent. Moi mon fils je lui faisais le gamin. Voilà, donc le bruit du P c'est un peu le rire quand même.
Arnaud Ducré en spectacle à la Théâtre Gaîté Montparnasse.
Tu fais pas ton âge Morgane.
On va continuer de parler ensemble jusqu'à midi et demi. Voici Paul Marbelle.
Bonjour Nagui, bonjour Daniel, bonjour tout le monde. Tout le monde va bien aujourd'hui?
Extrêmement.
Ah, oui. Super, bah, écoutez moi aussi, ça va. Je crois que je suis en train de passer un cap dans la vie d'adulte en ce moment, parce que j'ai passé tout le week-end à monter un meuble Ikea. Donc autant vous dire que j'ai passé un très mauvais week-end. Déjà j'ai pas compris pourquoi sur la notice il y avait écrit se monte en 2 heures alors que j'en ai mis 13. Quand je l'ai reçu vendredi, je me suis dit c'est bon, dans 2 heures j'ai une nouvelle commode. Et dimanche à 4h du matin, torse nu dans mon salon avec des vis dans la main, je me suis dit bon, est-ce que c'est vraiment être adulte que d'insulter tout l'arbre généalogique d'une étagère. Après, je le conçois, c'est un peu ma faute parce que j'ai pas pris l'option que quelqu'un d'autre te monte le meuble pour une raison extrêmement simple, hein, qui est que je suis con. Voilà. Enfin, je pense qu'il n'y a pas d'autre explication rationnelle. Hein. En plus, c'est très simple comme concept. Ça consiste, quand tu sais pas faire quelque chose dans la vie, à laisser quelqu'un d'autre s'en occuper qui sait le faire. Par exemple, tu veux faire une émission qui parle correctement de cheveux, tu n'appelles pas Daniel Morin. Ils font une petite logique.
Tu as tort. Fut un temps.
D'accord.
Bref, continue.
Oui, mais c'est le principe de la chronique. Déjà, le premier problème auquel j'ai été confronté, c'est que sur la notice, il t'explique que pour monter le meuble, il faut être deux. Et j'habite tout seul. Ce qui veut dire que la première étape du projet, c'est qu'il faut trouver quelqu'un. Et pendant un moment, je me suis même dit, bon, on sait jamais, peut-être qu'il y a un pote à moi qui traîne dans un tiroir. Hein. Tu sais, parfois, tu ranges un peu tes étagères, tu dis, ah bah tiens, qu'est-ce que tu fais là, Morgane? T'es pas au badminton? C'est long de monter un meuble, vraiment. Honnêtement, je pensais pas que pour fixer une commode, il fallait poser des RTT. Tout ça pour, au final, un objet qui ne bouge pas, d'ailleurs. Hein, parce que 13 heures pour le monter, j'espère au moins que quand je rentre chez moi le soir, ils me disent, ben bonsoir monsieur, est-ce que je vous sers un truc à boire? Voilà. J'ai réussi à monter le meuble en entier finalement. Je suis au prud'homme avec mes voisins, certes, mais j'ai réussi. J'ai du mal à monter quelque chose, par contre, puisque là, quand j'ouvre un tiroir, ça allume la lumière dans la salle de bain. Voilà. En plus, maintenant, je me sens obligé quand quelqu'un va chez moi de préciser que je l'ai monté tout seul, soit qu'on me répond généralement, ça se voit. Là, on dirait plus un abribus qu'un meuble. Mais j'ai été prévoyant parce que j'ai gardé les petites vis en trop qui te restent là. Je me suis dit au cas où, mais je sais pas trop au cas où quoi, puisque je sais que si un jour il y a un problème avec le meuble, je dirais fais attention, il y a un problème avec le meuble, mais il faudra surtout pas compter sur moi pour reprendre un tournevis. Je me suis peut-être un peu trop passionné pour le bricolage, par contre, depuis cette aventure, puisque maintenant, dès que je passe devant un mur, je suis obligé de taper dessus en disant, tiens, je crois que c'est pas porteur ça, alors je sais même pas ce que ça veut dire. Tu découvres des mots d'ailleurs quand tu t'adonnes au bricolage également, tel que le mot s'adonner, déjà que je viens d'utiliser pour la première fois de ma vie, ainsi que le mot cruciforme, que tu n'utilises d'ailleurs jamais, à part quand tu bricoles, puisque je n'ai jamais vu dans la vie une paire de chaussures cruciformes, à part celle de Nagui, bien évidemment. Maintenant qu'elle est montée, il me reste juste à acheter des objets à poser sur la petite commode du coup, sinon ça sert à rien d'avoir une commode, c'est même pas très commode.
Non, voilà.
Nagui, alors oui, si
non.
Ce jeu de mots existait.
Merci. Oh,
j'espère qu'on en parlera dans quelques années de ce jeu de mots quand je ferai une tournée des Zéniths et que Nagui dira mais quel parcours quand même chez ce garçon. J'étais sûr qu'il deviendrait quelqu'un le jour où il a dit qu'une commode c'était pas très commode, et tout de suite les carnets de campagne de Philippe Bertrand. Je vous laisse parce qu'il faut que j'aille vérifier sur le mur d'en face est porteur ou non, auquel cas ce ne serait pas très commode. Merci beaucoup.
Merci. Et Paul, tu es au théâtre des Mathurins du mercredi au samedi. On te retrouve aussi en tournée en 2022.
Oui.
Et tu seras à Paris Paradis, c'est ça, le festival du journal Le Parisien.
Oui, dimanche.
Il y a plein de musique, il y a Gaëtan Roussel, il y a Trio.
À la
et
Villette.
Puis toi, tu, ouais, c'est ça.
Et moi, je vais faire des blagues pour le.
Non, mais il y a les deux. Il y a musique et rire, hein, c'est
oui,
ça.
Oui. Et après au festival de France Inter.
Ah, t'as une journée de dimanche de dingue.
Mais il a un emploi du temps de dingue.
Mais c'est ouf. C'est ouf. Tu m'étonnes que t'as pas le temps de fabriquer des meubles. That's Life. Arnaud Ducré se raconte sur scène. Quand vous avez décidé et eu envie de remonter sur scène après 4 ans d'absence. Mes 4 ans chargés dans les tournages et dans les succès que vous avez rencontrés, l'angle, c'est-à-dire la narration d'être très personnel, était une évidence ou vous êtes aussi posé la question de créer comme ça différents personnages?
Non, bah c'est ça. C'est, en fait, j'ai quand même une femme qui fait de la pole dance. Elle a des triplés qui se ressemblent pas, ce qui est quand même incohérent.
Ne me dites pas que tout est vrai dans le spectacle, parce que là, franchement, ça va.
Non, mais les triplés qui se ressemblent pas.
L'accouchement.
Oui,
alors.
Mais alors
c'est ça, l'accouchement.
Parce que j'ai peur. Si vous commencez à me dire que tout est vrai, j'ai très peur pour certains détails.
Non, tout n'est pas vrai. Tout n'est pas vrai. Mais les triplés qui se ressemblent pas, ça c'est vrai. Mais voilà. Non, c'est déjà.
Il y a une fille.
Et il y a une fille, il y a deux garçons et une fille, voilà. Ouais.
Donc la vanne sur la gifle.
Oui, la vanne sur la gifle où je les adore, enfin sauf un, je dirais pas qui, je veux pas faire de mal à la petite. Oui, c'est vrai, mais ils ont adoré d'ailleurs, ils sont venus.
Ils ont quel âge?
Ils se sont mariés, hein. Ils ont 16 ans.
D'accord.
Ouais, ils sont plus tout petits, mais.
Mais c'est du taf, quand même. Ils sont en âge d'avoir de l'autodérision ou de comprendre qu'on fait des vannes.
Ouais. Ah ouais, ouais. Et puis l'autre fois, ils sont venus avec des copains, ils étaient contents que les copains soient là pour voir les.
Parce que c'est pas facile d'accepter, j'imagine, pour quelqu'un, mais là, je m'adresse aussi bien à Morgane, Paul qu'à Daniel et vous, Arnaud, quand on est sur scène et qu'on fait une vanne sur quelqu'un qui est dans la salle ou qui peut ressentir la vanne, c'est pas évident de l'accepter aussi.
Bah ouais, mais ça les a fait marrer en fait.
Non, tout le monde.
Ah ouais, tout le monde.
Et vous avez
ou alors ils l'ont pas dit, mais.
Dans votre vie, vous avez déjà fait une vanne sur quelqu'un qui l'a mal prise en spectacle
Non, peut-être ma mère qui m'a dit, oh, je suis pas comme ça. Non, il y a mon oncle sur mon premier spectacle où je faisais les mecs de Rouen qui parlaient comme ça. Je faisais, évidemment, tu les vas, je suis content, de toi. Mon oncle est venu voir le spectacle et je lui dis, bah je me suis inspiré de mon oncle qui est là. Et en fait, mon oncle m'a bien voir et fait, mais attends, putain, mais je parle beaucoup comme ça du tout. J'ai jamais parlé comme ça. Je suis un peu comme ça. Mon oncle que j'aime tant. Voilà, mais
non,
ça va, ça va.
Paul, Morgan, il y a des moments de
jet. Je me suis déjà surprise à en enlever une, ouais.
Parce que c'était sur la famille et que tu t'es dit, je peux pas faire ça.
Ouais, je me suis dit, ça va leur faire du mal, ça sert à rien. C'était un truc en rodage, j'étais même pas sûre de la garder, donc je me suis dit, si je peux éviter de vexer quelqu'un pour un truc où on n'est pas sûr.
Non, mais après, est-ce qu'on peut tout faire? Parce que le problème d'une vanne, c'est qu'elle est faite pour rire et qu'on n'a pas à se poser la question de savoir si c'est vrai ou si c'est faux. Moi, je suis devant votre spectacle, Arnaud, j'ai pas à me demander si votre mère boit réellement, si votre femme a réellement eu une césarienne ou.
Non, mais sauf que les gens, quand ils le voient, ils pensent que c'est un violeur par rapport à. Tu peux te dire qu'il y a un trouble qui peut
alors,
naître.
Non, mais les gens qui pensent ça, c'est pas forcément les plus aiguisés du tiroir.
Non, mais sauf qu'en attendant, ils existent.
Ah, mais tiroir, Paul, tu veux parler? T'as dit tantôt du tiroir, tu veux parler?
Je sais pas, peut-être qu'on est sur scène, on se rend pas compte que ce qu'on dit, pour nous, ça peut être anecdotique, mais pour quelqu'un qui le voit dans la salle, ça peut être beaucoup plus violent que ce qu'on pensait.
D'où ma question.
Mais des fois, c'est très subjectif. Et moi, par exemple, ma mère sur le coup de rosé, pour faire une heure là-dessus, mais c'est vrai que je lui dis, maman, je lui dis, les gens, ils vont t'aimer, en fait. T'inquiète, on sait bien.
On est en France.
Non, mais en fait, ce que je dis d'ailleurs, c'est qu'en fait, nous, on est vraiment une famille de bons vivants. C'est-à-dire que effectivement, ma mère, la porte, elle est toujours ouverte. Ça m'est arrivé plein de fois d'arriver avec 4 potes, me pointer, me dire,
il y a toujours un truc à manger.
Tu pourrais me prévenir. Bon, vous mangez quoi? Tu vois. Donc c'est ça en fait. C'est surtout ça, et c'est ce que quand même tu ressens. J'espère dans le spectacle.
Absolument.
Juste pas une mère qui est au bout de la table complètement ivre morte. C'est pas du tout ça.
Tous les membres de la famille n'en sortent pas indemnes, quoi.
Tous les membres de la famille n'en n'en sortent pas indemne. Mais moi, je suis un bon vieux aussi, hein, je le cache pas. Et c'est vrai que, bon, voilà, on a 22 ans, on a tous un peu la gueule un peu rouge.
Donc, mais quand tu parles de tes proches, en général, enfin, j'imagine, c'est parce que tu les aimes, que tu te permets, justement.
Si je bosse toujours, j'en parle pas d'ailleurs.
Ils le savent.
Ouais. Il n'y a pas de règlement de compte, il n'y a pas de méchanceté, particulièrement. Mais pour en revenir encore une fois à l'idée de monter un spectacle et de l'écrire comme ça à partir d'une page blanche, vous, tout à l'heure, vous disiez admirer Albert Dupontel qui crée des personnages. Là, en l'occurrence, vous digressez à partir de la vérité pour en faire une caricature.
Ouais, pour en faire une caricature. Mais après, j'essaye. Alors, c'est pas fini, hein, parce que moi, j'ai pas fait un nombre d'âge.
Alors qu'avant, vous faisiez le prof de sport. Enfin, il y avait des choses qui étaient plus scénarisées.
Un peu plus scénarisées personnages et tout, mais on continue d'évoluer. Là. J'ai eu encore Tom hier au téléphone, on se parle, on se dit tiens, ça faut le décaler, il faut le changer. De ce que vous avez vu, vous, en vidéo, j'ai changé déjà le début, j'ai ravancé des choses.
Mes
camarades
savent
ça, c'est toujours.
Ça, c'est quoi? Oui, c'est le doute.
C'est parce que je perdais beaucoup de rire. Il fallait que j'ai gagne des rires sur le début. Et je trouvais que.
Ça dépend pas de la salle. Il n'y a pas des salles qui rient plus que d'autres à certains endroits.
Ouais, mais c'est ça, c'est tout le travail aussi. C'est qu'il y a même des gens qui peuvent vraiment se marrer sur des trucs et tu te dis. Même toi, tu sais que c'est pas le bon endroit ou que c'est pas la bonne vanne en fait. Donc faut l'enlever ou faut des fois se faire des sacrifices. Mais surtout, c'est l'équilibre du spectacle qui est important et c'est là où on continue de travailler en fait. Quoi,
ça veut dire qu'il faut soigner en particulier des moments. Quand vous disiez au début, j'avais pas assez de rire.
Au début, j'avais un truc que je faisais où je chantais sur le Roi Lion. Les gens regardaient et c'était trop frontal. J'arrivais sur un truc où je chantais, je les emmenais dans un truc. Les gens dès le début ils disaient d'accord, c'est ça. Que quand tu leur mets 2-3 vannes du début assez fortes pour que ça rie. Hop, tu gagnes du crédit. Donc tu gagnes du. Tout d'un coup, les gens font OK, rire. Et tout d'un coup, tu peux derrière amener un truc.
Paul.
Mais ce qui est fou dans ce que vous expliquez, c'est que vous essayez le spectacle en entier d'un coup pour la première fois. Enfin, je parle pour Morgan et moi parce que je l'ai vu travailler. Mais nous, on essaye des petits bouts de 3-4 minutes. Et j'imagine le stress que ça doit être la première fois de tester une heure
d'un coup. Ça, c'est marrant que tu me dises que vous me disiez ça. Pardon. Parce qu'en fait, hier, j'ai vu Brahms. J'ai fait une scène pour les Open du Rire là. Et j'ai vu Brahms qui me dit, moi, je fais à droite, à gauche, des trucs. Et en fait, moi, je suis arrivé direct avec un truc.
Une heure et demie.
Pas une heure et demie, j'avais 1h10. Mais effectivement, personne ne l'avait vu. Alors, c'est vrai que sur le coup, j'ai fait. et Tom, qui est donc là, mon ami Tom, co-auteur, me regarde et me fait t'inquiète, ça c'est bien, ça va le faire. Et puis, t'arrives juste avant le rideau, vous aussi, pour vos petits passages au début, j'imagine. Tu te dis, tiens, mais je vais me prendre un four. Et bon, ça passe ou ça passe pas. Et puis voilà.
Ça arrive le four?
Ah ouais, ça m'est déjà. L'autre fois, j'ai fait, je suis fait un truc, ça fait pas un rire, et je fais, oh putain. Ouais. Une fois, deux fois, tu te dis, c'est ta faute là.
Et c'est là où on a besoin de l'énergie, justement, et de la présence et du charisme pour reprendre la salle et la
remarquer. Après, il y a beaucoup de gens se disent souvent, mais t'as une énergie. Ouais, mais bon, l'énergie, ça fait pas tout, les gars.
Mais ça peut sauver de temps en temps.
Ça peut sauver de temps en temps. Faut quand même amener des choses et donner à manger aux gens.
Et le co-auteur, justement, vient vous rassurer dans ces moments-là aussi.
Tom rassure très bien. Et d'ailleurs, je lui dis l'autre fois, excuse-moi, Tom, parce que t'es à fond sur moi en ce moment, mais toi, t'as ton one man aussi.
Non mais il rassure mieux que ce qu'il écrit, Tom. C'est tout.
Il a un côté infirmière.
Il a un petit côté rassurant. Mais voilà, on dit Tari, non, il m'a rassuré.
Comment il est où l'auteur rassurant là? Comment il s'appelle déjà? Tom Villa.
On va parler avec Déborah Schumann-Antonio qui est psychologue et qui viendra nous dire tout à l'heure de l'importance de se raconter ou pas en public sur scène.
Je m'allonge ou pas? Tu veux que je me mette sur un?
Non, mais c'est intéressant de savoir psychologiquement ce que ça veut dire. La musique, elle est importante dans la vie. D'Arnaud Ducré, elle est importante dans son spectacle parce que oui, il y a. Mais il y a aussi. Très très drôle, les experts. Très très drôle. On se moque des woos. Oh, moi, ça me blesse un peu de se moquer des
woos. Je me moque pas des woos.
Si vous voulez. Boum boum. Avec le pied.
C'est quoi?
Mais je crois qu'on a retrouvé des traces. On va refaire le spectacle. Allez le voir, c'est vraiment extrêmement drôle. En 78, Arnaud Ducré, vous écoutiez évidemment. On retrouve l'affiche.
78, c'est l'année de votre naissance, Arnaud, à Rouen donc. Vous parlez beaucoup de votre maman dans le spectacle, comme celle qui vous a accompagné la première fois au cinéma et à qui vous avez montré
l'écran
en disant « un jour je serai là, un jour je serai la star ». Vous parlez peu de votre père dans le spectacle.
Oui, Parce que mon père n'a pas que j'aime beaucoup et on se revoit beaucoup maintenant, mais c'est vrai que voilà, je suis très fier de lui maintenant, mais c'est vrai que je peux pas inventer l'histoire que je n'ai pas en fait. Donc j'allais au cinéma avec ma maman, mon père n'allait pas au cinéma, n'a jamais aimé le cinéma. Quand je faisais du beatbox dans la voiture, mon père des fois me disait oh mais arrête avec tes bruits. Voilà, quand je faisais du beatbox avec ma maman, maman me disait il fait bien, hein, t'as vu hein. Et donc voilà, mais mon père, je sais, est très fier de moi et je suis aussi très fier de lui. Voilà maintenant, mais je peux pas inventer une histoire que j'ai pas.
Ouais, mais c'est pas un personnage sur lequel vous pourriez faire.
J'ai un sketch
blagues.
Sur lui, mais si. Ah si, mon père, il est très drôle. Hein. J'ai un sketch sur lui, mais justement par exemple, je n'ai pas encore l'axe. Il c'est pas assez drôle, ça va pas.
Oui, il est pas dans le spectacle.
Mais mon père me raconte. Non, mais c'est juste sur le GPS où mon père, vos parents sont comme mon père, lui, t'as beau lui dire que t'as un GPS et que tu sais si tu notes l'adresse, tu vas aller au. Non, faut qu'il t'explique. Il dit le GPS, il va te dire de tourner, tu l'écoutes pas. Tu vas tout droit. Je fais tout d'un truc. Et en fait, voilà quoi. Donc, je suis en train de chercher. On a pas encore bien trouvé le truc.
Non, mais c'est vrai qu'il y a une vanne sur l'ancêtre du GPS qui était la bonne carte. Michelin dévié.
Les engueulades avec mes parents dans la bagnole. Avec le fameux. Ah merde, Jean-Claude, tu nous as mis une heure et demie dans la gueule. On a raté la sortie.
En 94, vous écoutiez. Quand vous écoutez de la musique, c'est pour danser.
Ouais, bah non, bah, pour danser, oui, j'aime bien danser, ouais. Moi j'aime bien danser. Mais ouais, j'aime bien danser seul en boîte, j'adore.
Même là, vous l'écoutez tout de suite, vous avez
j'adore
envie de
ce morceau. Ça, c'était, j'étais en BEP électrotechnique. Je suis pas resté longtemps, hein. Ils avaient plus assez d'ampoules, hein. J'ai tout pété dans la. J'étais mauvais. Et en fait, Looney, c'était extraordinaire. Mais en fait, c'est la descente, si t'écoutes, derrière, c'est la descente de Stevie Wonder. Pam, 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 pam. Tu vois le morceau de Stevie?
Master Blaster.
Pam, 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 pam. J'adore. Et ce morceau, je trouve génial.
On est en 94, vous faites en effet ce BEP, mais pas longtemps.
Voilà.
Vous voulez être comédien, vous dites à votre mère, si je ne pars pas, si je ne fais pas ça, ça va mal se passer.
Ouais, parce que.
Je vais le tourner, quoi.
Ouais, parce que là, par contre, c'est vrai que même avec le recul maintenant, je commençais à déprimer, en fait. C'était une déprime, je m'en rendais compte. C'est-à-dire que j'arrivais en cours, j'avais 18 ans, là. Donc pour moi, ça y est, c'était. J'arrivais en cours à la bourre. Je dormais devant les profs, ce qui est quand même, tu vois, déplorable.
C'est
parce que le pauvre mec qui était là en train de donner ses cours, moi j'étais comme ça. Il me donnait des feuilles, je faisais plus rien. Et là, j'ai dit, maman, tu sais, si je m'en vais pas, ma vie, elle est ailleurs qu'ici, quoi.
Il y a eu cette tentative de braquage aussi. C'était un bon indice.
Et vous venez à Paris pour vous payer les cours Florent.
Je viens à Paris pour les cours Florent, entre autres. Et puis, j'ai trois copains qui étaient en cours avec moi qui me disent, viens vivre avec nous. Et on fait la coloc à trois dans un 30 mètres carrés. Alors, ça va être 80% d'humidité dans la baraque, un appartement. Ma mère, elle est venue me voir dans l'appartement, je l'ai su après. Moi, j'étais heureux, en fait. On était contents. Et elle est repartie en pleurant. Elle m'a dit, il vit dans un taudis. C'était mignon. Mais, j'étais heureux.
C'est le principe de parents, hein, toujours être inquiet.
En même temps, et c'est 3 dans un 30 mètres carrés avec 80% d'humidité, c'est inquiétant.
Mais j'ai mon pote a eu des champignons, je suis sûr, ça sur le corps. Et moi, je me rappelle, je prenais les textes de j'avais des livres, genre, qu'on bossait, tu vois, et me lire ça. Et le lendemain, le livre était ondulé. Tellement c'était les types pourris, c'était pas.
Côté musique, donc on va réécouter le gimmick. Ça s'appelle de l'inspiration, pas du vol.
Mais c'est bien là, c'est bien, c'est la flûte.
C'est un hommage.
En 2009, retour de Michael Jackson dans les oreilles d'Arnaud Ducret. Non, tout va bien.
Oh, la meilleure. Et 2009, on vous retrouve sur scène.
Ah, j'adore.
Pareil, mais en mieux.
Ah oui.
Ah oui.
Ah oui, pareil, mais en mieux,
au point virgule.
Ah ouais, 22h30. Ouais, j'ai joué à 22h30 au point virgule les jeudis, vendredis, samedi. Mais j'avais pris 22h30 parce que je ne voulais pas, mon spectacle n'était pas pour moi à la hauteur, donc il fallait que je sois plus à 22h30 pour pouvoir prendre des gens, mais continuer de bosser un peu comme ça.
Parce que le rire n'est pas le même à 20h30 et à 22h30?
Non, l'exposition n'est pas la même. T'as moins de gens du.
C'est pas le même public, en
ouais,
tout cas.
C'est pas le même public. Enfin, pour moi, c'était pas le même public. Donc,
ils ont déjà bu aussi.
Voilà.
Ils sortent de table.
Ma mère qui arrivait avec sa bouteille de rosé. Non, j'ai quand même.
Non, mais ils sont peut-être plus jeunes, plus.
Non, mais c'était moi qui voulait ça, je ne voulais pas faire parce que j'étais pas. Je pense qu'on aurait perdu plus d'argent. Je voulais être à 22h30, personne ne me connaissait. Je voulais faire les choses.
Doucement.
Ouais, parce que la location n'était pas la même. Il me semble que le garage n'était pas le même. Enfin, quand tu loues la salle, à 22h30, c'est moins cher. Voilà, on sort. Moi, je m'auto-produisais, quoi. Voilà, quoi. Donc voilà.
vous autoproduisiez par souci de liberté de pouvoir faire ce que vous vouliez, où vous vouliez, quand vous voulez, ou
par manque de producteur.
Ouais. Non, parce que j'étais
c'était mon associé.
Mon associé Thibaut Vallès, avec qui je développe des films là et des séries, on va qui coproduit le spectacle avec moi. On est ensemble. C'est un producteur à la base de télé. Et qui m'a vu sur un casting au tout début de ma carrière et qui m'a dit, toi, je vais te produire. Il m'a dit, t'as quelque chose, et c'est resté mon ami depuis maintenant 20 ans. Et c'est,
non, mais
c'est
vrai. Mon producteur est resté mon ami, ça, c'est une phrase.
C'est vrai quand même, on est quand même amis aussi, et c'est mon associé. Voilà, c'est pas mon producteur, c'est mon associé. Et je coproduis avec Little Bros Productions.
En 2017, vous écoutiez.
Ah, je suis un lover, moi.
Ouais, ce que j'allais dire, ouais. C'est-à-dire qu'il y a de la danse, mais ça peut être langoureux.
Non, j'aime bien,
ça peut être sexy.
J'adore ces trucs-là, les envolés.
Vous jouez d'un instrument ?
Pardon ?
Vous jouez d'un instrument ?
Batterie comme ça, mais pas. Je sais pas jouer, moi.
Et on vous retrouve à l'affiche de trois films en 2017, L'embarras du choix, Les ex, Les nouvelles aventures de Cendrillon. Ce démarrage, quand vous avez arrêté de faire votre spectacle pour aller faire du cinéma, pour faire de la télévision, vous avez dit quoi, il faut attendre un petit peu que mon image d'humoriste se passe un peu pour qu'on me propose des rôles. Là, par exemple, dans la série Mensonges, vous n'êtes pas du tout sur une tonalité humoristique.
C'est ce qu'a dit Audrey Fleurot à ce micro. Elle vous a fait des compliments en disant...
Ouais, c'est gentil.
Non, mais que vous étiez un formidable partenaire et que, notamment dans la scène du viol, la manière dont vous étiez très crédible, rassurant avec elle pour...
Ouais, bon, on a rigolé. Ça, il faut.
Il fallait ça pour pouvoir la jouer.
Ouais. Je déconnais, et puis tout d'un coup, ça descendait un peu, quoi. Tu vois. Mais
ça a mis du temps pour qu'on vous regarde autrement, qu'on vous propose des rôles qui ne soient pas dans des comédies.
Ouais, je oui. Mais par contre, je le dis à chaque fois, mais j'ai quand même beaucoup de chance que on me voit. Je veux dire, c'est pas moi qui dit je veux faire du drame. Hein. Voilà, peut-être que je l'ai dit dans des interviews que ça me plairait de jouer tout. Moi, je veux tout jouer. Hein. Mais c'est vrai que tout d'un coup, un réalisateur, Pierre Aknin ou La Mensonge. Tout d'un coup Stéphanie Murat, enfin voilà, TF1 se disent tiens
Dupont de Ligonnès
aussi. Ouais, Dupont de Ligonnès avec Pierre Aknin, mais qui se disent tiens, il serait pas mal lui en drame. Bon, bah, ça c'est une chance, hein.
Et ça a fonctionné en plus, carton plein. Déborah Schumann Antonio, merci de venir à ce micro, madame, vous êtes psychologue.
Bonjour.
On se voit souvent.
Vous passez votre temps ici.
Entre ici et mon cabinet.
On voulait évoquer avec vous la démarche particulière de se livrer sur scène. Immédiatement, la réaction d'Arnaud, ça a été, il va falloir que je m'allonge.
J'ai entendu ça.
Est-ce que c'est une forme d'analyse quand un humoriste se raconte?
C'est une forme d'analyse avec une grande différence, c'est que quand on est en analyse, normalement, on est face à un seul individu qui se veut bienveillant, normalement, qui n'est pas dans le jugement, hein, quand tout se passe bien. Donc là, c'est un peu différent, puisqu'on se raconte sa vie, on se raconte devant plein de gens qu'on ne connaît pas, qui ne nous connaissent pas, et qui ne sont pas toujours bienveillants. Quand je dis pas toujours bienveillants, c'est que, vous le disiez tout à l'heure d'ailleurs, en fonction de l'humour qu'on peut avoir, ça va matcher ou pas matcher. Notre histoire aura une résonance ou pas envers les autres. Ce qui n'est pas du tout le cas dans la thérapie, où de toute façon, le thérapeute est là pour nous écouter, et est là pour nous aider. Donc c'est là où c'est un peu différent. Mais on se raconte dans les deux cas.
Alors, quelle est la frontière entre l'impudeur et l'honnêteté, la franchise?
C'est compliqué. On se raconte, la différence, j'allais dire, surtout, elle se joue dans l'humour. Dans une thérapie, alors on peut même dire les choses avec humour, hein, soyons à l'aise. Hein. Mais c'est vrai qu'on sait que l'humour, il va être déminé par le thérapeute qui est en face. Là, l'humour, il va servir à dire des choses, à prendre de la distance. L'humour, ça sert à ça. Ça sert à dire des choses parfois terribles, qui vont même être des choses très douloureuses, mais avec une forme de distance. Et comme le font très bien les enfants, mais qu'on garde quand on est adulte, d'ailleurs, on peut même rétro-pédaler en disant « Attention, c'était juste de l'humour, c'était une blague. » Donc on se cache derrière ça, et ça nous permet du coup de pouvoir dire tout ce qu'on a envie de dire, d'une manière un peu comme ça à distance. C'est ça qui nous permet d'être moins douloureux.
Il y a ceux qui, comme certains autour de nous à cette table, en font un spectacle avec talent et avec humour. Et puis il y a ceux qui se racontent, mais dans la vie de tous les jours, au bureau, à la photocopieuse, à la machine à café, qui dès l'instant où on dit un bonjour, comment ça va, il faut que je te raconte, ça va pas, parce que j'ai... Et puis qui ressentent le besoin de se raconter, même quand on s'y attend pas. Et que, alors après, il y a des bonjours aussi où on n'écoute même pas la réponse. Il y a les bonjours qui sont diplomatiques et voire par moments impoli, tête tournée, bonjour, je m'en fous de savoir si ça va ou si ça va pas, mais ceux qui ressentent le besoin de se raconter, Ça s'explique comment? Manque de communication, problème dans la vie privée, personne d'autre à qui parler que les gens du travail,
l'ego,
la famille, ouais.
Oui, il y a une forme d'ego, vous avez raison. Bien sûr, de toute façon, on a tous besoin de se raconter. Il faut pas se leurrer. Tout le monde se raconte d'une manière ou d'une autre, que ce soit en dramatique, en comique, que ce soit sur les réseaux sociaux.
Voilà,
les réseaux sociaux aujourd'hui, c'est quand même l'exposition maximum de ce qu'on peut raconter.
Qui présente que le bon côté des choses.
Qui ne présente que le bon côté des choses. Effectivement, c'est plus compliqué d'aller se livrer en disant à son collègue ou à la machine à café, je vais super mal et c'est horrible, etc. D'abord, c'est très pesant pour les autres. Ils sont peut-être pas. Et vous le dites justement.
C'est insupportable. J'ai des problèmes. Non.
Mais il y a des moments où c'est incongru.
On refile la patate chaude. Est-ce qu'on s'en débarrasse quand on dit?
C'est très libérateur en fait de parler. C'est très libérateur de dire les choses. Et en plus, quand on les dit à voix haute, j'allais dire, c'est comme dans une thérapie. On s'entend les dire, donc on en prend conscience. Parfois, on prend une forme de distance. Mais du coup, on a tous besoin de le faire d'une manière ou d'une autre. Le seul souci, c'est avec qui on le fait et comment on le fait.
Mais il y a aussi des appels à l'aide. Il y a aussi des personnes qui
disent. Oui, des gens qui attendent que vous.
Est-ce que je peux te parler deux minutes? Et non, j'ai pas le temps. Et puis on se rend compte que c'est. Il fallait le prendre parce que quelque chose de grave s'est passé ensuite. Donc il faut aussi prêter l'oreille et prêter l'écoute à ceux qui le souhaitent.
Oui, mais pour communiquer, il faut être deux. Et pour communiquer, il faut que les deux soient au même stade. C'est-à-dire que quand j'ai envie de communiquer ou quand j'ai besoin de communiquer, je pense qu'en face, il faut que l'autre soit réceptif. Donc, si on dit à quelqu'un, j'ai besoin de te parler deux minutes et que l'autre ne peut pas, c'est que l'autre peut très bien lui dire, est-ce que c'est urgent? Est-ce que c'est prioritaire? Est-ce qu'on peut se voir à un autre moment pour lui dire que la porte, elle reste ouverte et pas lui fermer la porte?
Est-ce que tu peux sortir de mon lit?
Et ça, c'est valable à tout âge, aussi bien quand on est ado qu'adulte ou grand-parent?
Oui, alors c'est plus difficile dans le cadre personnel, j'allais dire. C'est-à-dire, c'est pour ça qu'on le fait plus facilement. Je vais vous dire, vous allez chez le coiffeur, les coiffeurs vous diront, comme d'ailleurs les taxis, que les gens racontent aisément leur vie sans aucun filtre. Ils ne connaissent pas ces gens-là ou ne les reverront peut-être jamais. C'est beaucoup plus évident de le raconter. C'est pour ça que le rôle du thérapeute qui est neutre, d'ailleurs, c'est très agréable. Le raconter à sa famille, c'est peut-être changer l'image qu'on a de nous auprès de sa famille. Ça peut être dangereux.
Et
ça peut être mal perçu.
Et se risquer un jugement.
Et se risquer au jugement, qui est la pire des choses.
Déborah Schumann-Antonio, merci d'être venue.
Merci
entre
vous.
Deux rendez-vous au cabinet, ici à ce micro.
Je préfère un chèque ou...
Bonjour.
Je préfère le liquide.
Attention.
Ah, Daniel, le héros du jour, évidemment, suis-je bête? Mais alors,
Alors aujourd'hui, mon héros du jour aurait pu, en toute modestie, être l'univers. Oui, car figurez-vous qu'une équipe de chercheurs français a déclaré avoir découvert la partie manquante de l'univers. L'équipe française dit, la partie manquante, on peut pas la voir, mais elle est là. C'est des vents. Ben voyons, quelle arnaque. Le rédacteur en chef de l'émission, Jean-Baptiste Pétain, a regretté que je n'aille pas plus loin sur le sujet. Il m'a dit, si tu étais poète et concerné par le cosmos, notre maison à tous, tu aurais choisi de poursuivre sur cette voie, mais comme tu n'es qu'un salopard égoïste et sans cœur, je sens que tu vas préférer un autre héros du jour. Puis il a démarré son 4x4 diesel, s'est engagé sur une piste cyclable en écrasant deux personnes âgées véganes. Et il a raison, ce con. Il a raison. Aujourd'hui, mon héros est un homme à cran, un homme au bout du rouleau. Jean-Yves Le Drian, en pleine crise des sous-marins, vient de recevoir une bonne nouvelle sur le plan du commerce extérieur. Alstom vient de signer un gros contrat. 25 trains pour 300 millions d'euros. Le client? La ville de Melbourne. Où ça? En Australie, Encore l'Australie. Alors moi, je suis à la place de Jean-Yves Le Drian, j'y crois qu'à moitié. On parle de confiance ou pas entre la France et l'Australie? Moi, perso, j'ai plus confiance en Zemmour pour fonder une assoce sur l'amitié des peuples ou en Christine Boutin pour investir dans un club échangiste transgenre qu'en l'Australie, qu'en partenaire économique valable. Du coup, les consignes sont claires. Les gars chez Alstom, ils ont interdiction de faire la fête pour célébrer la signature. Jean-Yves l'a dit, on bouge pas avant d'avoir reçu le chèque. Jean-Yves, chaque fois que son téléphone sonne, en ce moment, il sursaute. Quoi? Ils ont annulé ces fumiers, c'est ça? Ils achètent les trains au Mexique? Non, alors même chez lui, ça doit être tendu. Jean-Yves? Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Les Australiens ont annulé? Non, tu peux me passer le pain, s'il te plaît? Tu m'inquiètes, Jean-Yves. Là, si les Australiens, ils annulent, c'est fini, c'est terminé. Jean-Yves, il fait interdire les films de Nicole Kidman, il fout Kelly Minogue en prison, il fait décapiter un kangourou à la Bastille, il impose la viande de koala au menu de la cantine du ministère. Tu lui fais pas le coup deux fois à mon Jean-Yves. Alors voilà pourquoi, chers amis, en ce moment, et aujourd'hui, le 21 septembre, et parce que c'est un homme en souffrance, mon héros du jour, c'est Jean-Yves. Jean-Yves Le Drian.
Merci, Daniel. Bonjour Tanguy, j'ai hâte donc de savoir ce qui va se passer.
Je vais vous parler du combat des titans, plus fort qu'un combat Samina Seri contre Joe Star dans un octogone arbitré par Rod Veiler, Mélenchon contre Zemmour ce jeudi.
Et Arnaud Ducré est avec nous jusqu'à midi et demi.
Bonjour.
Morgane, Camille Campoli, Daniel Morin, notre invité.
Bonjour Morgane.
Arnaud Ducré. Yeah, that's life. That's Life au théâtre Gaîté Montparnasse. Ça a déjà commencé, ça se poursuit. D'ailleurs, est-ce qu'il y a une date à laquelle vous allez
arrêter?
Fin décembre, quand vous arrêtez?
Ah, j'arrête le 2 janvier. Je ne sais
vous
pas pourquoi.
Passez, vous passez les fêtes?
Ah, bah, je vais
c'est
faire le
Noël, réveillon.
Noël, jamais de la vie. Ah non, Noël, ça, vous m'oubliez.
Les enfants.
Je vais être avec les enfants parce que c'est Jésus, c'est Christ. Non, je déconne. c'est surtout les cadeaux. Noël et, non, le jour de l'an, oui, ça, c'est cool. Le jour de l'an, ça me fait plaisir de le 31. Je fais partie de ces gens, même c'est, bon, le 31, moi, ça me, voilà, il n'y a pas.
C'est toujours chiant,
en fait.
Non, ça, certains le vivent mal, d'ailleurs. Ça peut être déprimant. Tu comme, peux,
puis surtout à Paris, quoi.
Mais les salles sont très complètes, hein.
Ouais, les salles, ça cartonne, ouais. Mais déjà que tu peux pas bouger dans Paris en voiture, mais là le 31 au soir,
ça suffit, oui. Non, je voulais revenir sur la fiche. C'est sur mes doigts qui ripent. Sur la fiche de That's Life. Oui. Et de ce côté, beau gosse que vous
que vous n'avez pas.
Que vous revendiquez.
Mais je ne revendique pas le côté beau gosse, là.
Si, sur scène, pas... vous revendiquez en disant.
Je suis jamais senti aussi beau, ah oui.
Égérie, voilà.
Oui, égérie de Holligan, oui.
Après deux personnes illustres.
Ouais, Rocco
Siffredi. Je vous dis que c'est vrai. Avant, c'était Rocco Siffredi et Eric Cantona. Voilà. Donc les deux égéries, donc que des grandes tailles. Hein. Donc je vous avoue que je préfère passer derrière Eric Cantona quand même, mais non, je suis très fier de ça et je raconte tout ça en fait. Effectivement, c'est vrai, je raconte beaucoup de choses.
Bah hein, ouais.
Mais oui, c'est très intime. Mais on disait tout à l'heure que c'est impudique de monter sur scène et de se raconter, se montrer et jouer les beaux gosses et poser pour une marque, c'est encore une autre démarche.
Bah
c'est
oui.
Rassurant psychologiquement. On se dit.
Non, mais ça me fait plaisir. Moi, quand j'étais plus jeune, je devais avoir 17 ans, je crois, je faisais un magazine, je faisais des photos de mode pour un magazine qui s'appelait Melman à côté de Rouen, en fait, qui est un petit magasin, et je faisais des trucs pour eux.
Bon, donc voilà, vous avez toujours assumé
je
ça.
Fais un petit peu, ouais, bon, je suis pas beau gosse, hein, il y a des vrais beaux mannequins, quoi. Moi, je suis pas du tout dans cette catégorie-là. Mais bon, j'ai un physique qui fait que ça passe un peu partout. Alors, si j'ai la chance de pouvoir faire quelques photos, me servir de ça, c'est formidable. Hein.
Vous faites des blagues aussi sur vos tempes qui commencent à grisonner en disant ça.
C'est vrai que là, je regarde des fois, ça fait vraiment, puis ça fait une démarcation super chelou, quoi. Et on dirait Stark. Le père de Stark.
Mais ça veut dire que vous allez les laisser ou qu'il y a un moment peut-être aussi pour l'image vous allez commencer à les
éteindre. Non, ça me dérange. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est quand il pleut du concert à la nuque, il y a du noir dans la nuque. Non, mais je suis comme vous, Nagui. Moi, je suis bien, j'assume.
Moi, j'assume.
Ah bah ouais, ça me va très bien. Et moi, j'ai pas de problème. Donc voilà. Non, j'ai pas de souci avec ça. Sauf si tout d'un coup, pour un film, on se rend compte qu'à l'image, c'est bizarre.
Ouais.
Je le fais.
Mais c'est pour un rôle, comme pour une perruque ou une cicatrice.
Ouais, mais sinon, non, ça me pose pas de problème du tout.
That's Life à nu, j'ai envie de dire, parce que c'est vraiment Arnaud Ducré de la tête aux pieds, que ce soit avec sa famille proche, enfin sa famille, père, mère, cousins et autres, mais aussi ses enfants. Enfant qui a un rôle, d'ailleurs, que je vous laisserai découvrir sur scène.
C'est vraiment lui que j'ai, c'est vraiment c'est Oscar que j'ai enregistré. Et alors, pour le coup,
c'est très émouvant.
Je suis assez fier parce que il a enregistré très rapidement. Ça, je lui disais les phrases et bam, 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 il balançait. Et puis, c'est vrai que c'est quand même très agréable, je vous avoue, quand je suis parti en tournée, d'avoir la voix de mon fils avec moi sur scène, quoi. Donc,
presque rassurant.
Bah ouais, je sais pas, j'adore, je trouve ça trop mignon.
Ouais, c'est clair.
Et d'ailleurs, quand tout d'un coup je reviens un peu dans le sketch, enfin, j'y suis, mais quand tout d'un coup je trouve ça assez émouvant, quoi, quand il me dit.
Il y a un cœur derrière cette machine.
Mais des fois, quand tu réécoutes, j'ai de la chance, c'est cool.
That's Life, Arnaud Ducré, son nouveau spectacle. Voici Monsieur Tanguy Passion.
Jeudi à 20h45 sur BFM TV, il y a un combat de catch et je trouve ça bien que cette chaîne se diversifie. Jean-Luc Mélenchon, 80 kilos dont 79 kilos d'ego, va affronter Éric Zemmour, 31 kilos tout mouillé. Mais tel le Yorkshire à sa mère, quand il vous niaque le mollet, il lâche plus. Un jour, un gauchiste l'a traîné comme ça sur 14 kilomètres. Mélenchon et Zemmour ont un point commun, ils aiment causer sur l'échelle Marlène Schiappa de l'art oratoire qui va de 0 à 0. Ils sont à 120. Donc ils kiffent les joutes verbales. Jeudi, ça a plus débité de mots que lors d'une battle entre Eminem et Fabrice Luchini. Alors BFM nous vend la rencontre comme étant incroyable, l'expression « truc de ouf » a été employée à l'antenne par Alain Duhamel. Non. Mais les Lascars s'étaient déjà affrontés en 2014 sur RTL. Voilà, j'y étais, je me souviens, on avait mis des sacs de sable, BHL était venu depuis son riad de Marrakech en chemise Dior afin de filmer les combats, et en fait c'était ennuyeux, enfin pas une claque, pas une oreille arrachée, les tripes de chacun étaient restées à l'intérieur de son bidou, enfin nul. Et là ça va être la même chose, je veux dire, qu'est-ce qu'ils peuvent se dire? Ils ne partagent rien. Vous avez Yannick Jadot face à Sandrine Rousseau. Là, ça parle toilette sèche et touillette en carton. Mais Zemmour et Mélenchon sont plus éloignés l'un de l'autre qu'Harry Roselmack et Franck Provost. Et puis, ils se respectent. Or, la politique, c'est comme le sexe. Il faut avoir à cœur d'humilier l'autre. Pardon, hein, mais si la personne au minimum n'avale pas la clé des menottes après vous avoir attaché nu au collier d'un pitbull affamé, peut-on parler d'un samedi soir réussi, hein? En plus, bon, ils se connaissent bien. Tiens, depuis 2-3 jours, des tweets circulaient disant même que Mélenchon avait été invité à un annif d'Éric Zemmour. C'est comme un annif chez McDo, sauf que le clown Ronald a été rebaptisé Philibert. Donc le site Check News, qui appartient à Libé, a vérifié. Eux, ils vérifient, parce qu'eux, ils vérifient tout, hein, toute la journée. Parfois, vous avez un type qui soulève votre jupe et il dit non, rien. Eh ben, c'est vrai. Mélenchon était aux 50 ans de Zemmour. Hein, moi, vu la tronche qui tire, si je faisais une fête d'anniversaire, j'inviterais pas Mélenchon. À un niveau fun, ça équivaut à jouer à touche-touche avec un mec sans bras. Mais attention, peut-être qu'en privé, il est très sympa. Hein, c'est lui qui prépare les cocktails, le Louise Michel, le Gavroche. En fin de soirée, si ça se trouve, il joue les DJ, il fait « Bienvenue les loulous, et tous en cœur, c'est qui la République ?» Elle a la foulure « La République, c'est toi !» Mmh. On sait pas. Donc, Check News raconte, en 2008, la femme d'Éric Zemmour, Aïssatou Farida, organise pour ses 50 ans une fête déguisée sur le thème de Napoléon. Alors, ça se passe dans l'ancienne résidence de l'impératrice Joséphine, à Rueil, dans le 9-2, car oui, Joséphine était banlieusarde. Hein, dès 1800, elle prenait le RER A, enfin, je pense que le premier roumain qui a tenté la Java bleue à l'accordéon, c'est elle qui l'a vu. Pour la fête, le personnel est habillé en uniforme de soldat napoléonien. On fait tonner le canon, hein, à blanc. Éric Zemmour avait demandé qu'on bombarde le 93, mais les assurances l'ont pas suivi sur le projet. Enfin bon, la totale. Et en invité ce soir-là, il y a le gratin de la politique. Un livre sur Mélenchon sorti en 2018 raconte qu'il y a Henri Guénaud, Jean-Christophe Cambadélis du PS, Patrick Balkany et dit le bouquin Ricky Martin. Ricky Martin. Ricky Martin, quoi, celui grâce à qui on s'est tous compté jusqu'à 3 en espagnol. Ouais. Et pas au-delà, parce que Maria est arrivée trop vite, cette pétasse. Ricky Martin à la fête de Zemmour, c'est on vrai. Se dit, tiens, bizarre. Zemmour semble pas être du genre à boucher des hanches sur des rythmes latinos. Qu'à Kingston, il fasse une grosse soirée dancehall, c'est une chose. Mais danser sur Ricky Martin avec des filles qu'il appelle Rico, on n'y croit pas trop. Eh ben, figurez-vous que c'est une erreur, en fait. Check News précise que les auteurs du livre sur Mélenchon ont confondu Ricky Martin avec Dick Rivers. Et c'est vrai qu'ils se ressemblent. Hein, si on met de côté leur musique, leur apparence physique, leur accent, leur fringue et leur âge. Hein, dans ce cas, Benoît XVI ressemble aussi un peu à Amel Bent, mais bon. Mmh. Alors à la soirée en 2008, il y avait donc Dick Rivers, hein, qui en est mort 11 ans plus tard, donc les jeunes ne faites pas d'abus, hein, c'est très important. Plus Guénaud, plus Cambadélis, plus Mélenchon, enfin un casting totalement improbable. Hein, là, on a envie de dire, mais où donc était Sheila, Martine Aubry et Footix, hein. Et là, attention à ceux qui tenteraient de dire, oui, tous les mêmes, ils font semblant d'avoir des divergences et en fait ils passent leur soirée ensemble, je répondrai qu'on peut être différent et se réunir autour d'une même passion, celle des chipsters. Les chipsters, ces délicieux pétales soufflés à la pomme de terre. Quand il y en a dans un bol, on n'est plus de gauche ou de droite, on est juste des kleps en meute en train de baver comme Geneviève de Fontenay quand elle voit une pub pour Dubonnet qui lui rappelle l'année de ses 48 ans. Il faut pas se leurrer, une fête on n'y va pas pour voir Zemmour s'appeler en Napoléon juché sur une île de Sainte-Hélène en mousse, on y va pour bouffer, comme dans toutes les fêtes. Les soirées France Inter, c'est pareil, quand les chefs font leur discours, tout le monde dans sa tête dit « oui, ta gueule », en matant du coin de l'œil le traiteur qui aligne les petits fours. Enfin, Mélenchon est un être humain, il est aussi médiocre que nous. On a l'impression qu'il va trucider les riches, mais si Bernard Arnault sur la potence lui dit « ma vie sauve contre ton poing en saucisse », il choisit les saucisses. Hein? Et bon, alors tout ça c'était il y a 13 ans, donc Éric Zemmour n'était pas ce polémiste adulé qui est 24 heures sur 24 sur toutes les chaînes, à part sur Equidia, mais je crois qu'il s'entraîne pour le Grand Prix de Diane à Chantilly. Bon, il était journaliste au Figaro et entamait sa deuxième saison chez Ruquier. Donc, il n'était rien. En fait, normalement, son anniv, ça aurait dû se faire au restaurant La Pataterie de Massy. Hein, l'impératrice Joséphine, elle aussi, allait à La Pataterie en RER. Voilà. Quant à leur débat de jeudi, Mélenchon dit vouloir dégonfler la baudruche Zemmour, ce qu'il n'a pas fait il y a 13 ans avec les ballons de Zemmour en forme de bicorne. Il va peut-être le faire ce soir-là directement avec Zemmour, qui restera forever son collègue de chipster.
Merci.
Et Tanguy, tu seras le 2 octobre au casino de Hyères, yes, en spectacle.
That's life. On va écouter quand même quelques musiques qui font partie du spectacle.
Under my skin. Si, c'est moi qui le fais, oui, que je fais la bouche.
À la bouche.
Mais est-ce que vous allez garder l'ouverture
Non, vous la déplacez.
L'enfant prodige.
Vous l'avez déplacé.
Ça. Vous posez la question de le faire ou pas.
En fait, à la base, on avait mis un texte, c'est genre ça, l'enfant prodige est de retour. Et c'est tout un truc complètement au bidon. On l'a pas mis.
Genre une bande-annonce, quoi.
Genre une bande-annonce, ouais. Voilà. Et donc, c'était ce qu'on avait mis au début. Puis après, tout change. Donc voilà, on a mis autre chose, quoi.
Ce besoin de changer, c'est aussi rafraîchissant quand on est sur scène, de ne pas avoir deux spectacles qui se ressemblent aussi, et d'avoir cette liberté-là, de dire, ce soir, je fais ça, comme ça. Peut-être même de changer. Mais l'ordre des choses, il est chronologique un peu. Donc
Non, j'ai changé.
Ah, vous changez
ouais, il y a la famille était pas là à la base. J'avais mis Claire, enfin les triplés dont je parle de tout ça. C'était après, c'était plus haut. Enfin voilà, on a tout déstructuré pour que ça soit bien, enfin restructuré.
Parce que le rire, c'est le rythme. Donc c'est vraiment en fonction du rire de la salle que vous décidez de se.
Ah ouais. Puis c'est-à-dire que des fois, il faut mettre en abîme les trucs pour que tout d'un coup on ait le rire qu'on voulait sur un certain moment, certains mots, certaines tronches qu'on fait. Et des fois, on le perd parce qu'on l'a changé de côté. Enfin voilà, c'est tellement c'est chirurgical en fait, voilà, donc il faut vraiment faire les choses bien rythmiquement, quoi.
C'est réussi en tout cas, That's Life. Merci. Avec Tom Villa en co-auteur, par élégance et par pudeur évidemment, on lui a demandé de ne pas venir aujourd'hui, mais il vous attend sur le parking. C'est au théâtre
c'est dommage parce qu'il
des anges. Théâtre Gaîté Montparnasse. Dans le monde de la culture, oui. Leïla, que se passe-t-il?
Quelle personnalité réelle va jouer Jean Dujardin dans son prochain film? Le film, je vous dis un peu le pitch, ça racontera une sorte de road movie introspectif.
Ah bah Xavier Dupont-Ligonnès.
Et rural. Non.
Qui va jouer Émile Louis.
Qui va jouer Jean Dujardin.
Va incarner quelqu'un. Moi j'avais compris que quelqu'un allait jouer le rôle de Jean Dujardin.
Quelle personnalité réelle va jouer Jean Dujardin dans son prochain film?
Un road trip rural.
Alors, j'ai pas tout entendu du coup, parce qu'on se parlait. C'est un habitué de France Inter.
Sylvain Tesson.
Absolument. C'est Sylvain Tesson. Le film Les Chemins de Pierre, réalisé par Denis Imbert, qui était une adaptation sur Les Chemins Noirs de Sylvain Tesson. Et l'idée, c'est que, en effet, Jean Dujardin va prendre les traits de Sylvain Tesson. Moi, je suis assez curieuse de voir ce que ça peut donner, parce que tout d'un coup, Jean Dujardin s'est déjà prêté à l'exercice en incarnant une sorte de Nicolas Sarkozy dans le film d'Anne Fontaine, de président. Et maintenant, il s'attaque à Sylvain Tesson, un romancier qu'on accueille souvent dans cette émission.
Et je crois qu'il est aussi sur le biopic d'Alizé. C'est lui qui va faire Alizé.
C'est pas sa
faute. On vous a parlé de temps en temps d'une ressemblance entre Jean Dujardin et vous, Arnaud Ducré.
Ouais, on m'a dit que on était un peu dans la même trempe. Alors si j'ai le quart de sa carrière, c'est super, quoi. Mais bon, on avance tout doucement, on fait les choses, quoi. Mais j'adorerais jouer avec lui, moi.
Vous connaissez?
Ah oui, on se connaît. J'adorerais jouer. J'étais à côté de lui. J'étais très fier d'ailleurs.
Quand
on a rendu hommage à Belmondo de son vivant au César, qu'il a eu son César d'honneur, j'étais là et Jean était à côté de moi. J'étais très fier d'avoir Belmondo. Jean, il y avait plein de gens.
C'était un joli casting.
Ouais, Arnaud, cool. Est-ce qu'il y a un livre que vous aimeriez adapter, jouer, un texte en particulier,
que ce soit au cinéma ou
au théâtre? Est-ce qu'il y a un personnage, il y a une histoire qui vous plairait?
Non, on cherche là. On est en train justement de chercher. Mais ça passe par les livres, effectivement. D'ailleurs, j'ai appris une chose quand t'es producteur, c'est qu'il y a les fameux prix Goncourt, tout ça. Tout le monde vient voir c'est vraiment genre s'arrache la tête pour essayer d'acheter les droits et tout. C'est vrai que j'avais occulté ce moment, mais effectivement, les producteurs se battent pour avoir les droits.
Il y a même des enchères qui sont montées par les éditeurs.
Donc je découvre tout ça, mais oui, ça part du livre. Ça part beaucoup des livres. Donc j'espère trouver la bonne histoire.
Autre question, la télé française a connu une année 2020 record en termes d'exportation, mais savez-vous quel programme arrive en tête des ventes?
Les séries?
Non. C'est pas les séries.
C'est un programme. Un programme.
Quel genre de programme?
L'amour est dans le pré.
Exportation.
C'est
un genre de programme. C'est un genre.
Programme court.
Non.
Documentaire?
Non, pas loin. Documentaire, c'est en deuxième, non?
Fiction docu?
Programme court.
Non, pas programme court. Qu'est-ce qu'il y a d'autre à la télévision?
Publicité.
Crime. Sur le crime, non?
Non. Alors, il y a des films, il y a des séries, en effet. Il y a des documentaires, des magazines, c'est pas ça. Bravo aux dessins animés. Absolument. Absolument. Ça a enregistré des recettes de l'ordre de 355 millions d'euros en 2020, plus 10% quasiment en un an. C'est un record historique. Vous regardez un peu de dessins animés toujours avec l'Opsis, j'imagine?
Avec l'Opsis, je regarde. J'aime bien les dessins animés, j'adore ça. Mais quand on regarde des Disney, par exemple, pour le jeu, pour les humoristes, le jeu, enfin pour la comédie, j'adore regarder les Disney parce que c'est les rythmiques comme c'est dessiné, ils sont très des fois très rapides. Il y a des personnages comme Aladdin, le génie, tout ça, c'est bam 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 bam. Je trouve que ça t'apprend vachement rythmiquement en regardant.
Tex Avery à ce moment-là.
Tex Avery. Oui, mais là c'est vrai, mais là c'est vraiment du Tex Avery. Mais il y a des trucs super.
Je suis sûr que vous faites très bien le loup. De Tex Avery. Vous êtes capable d'avoir les yeux qui sortaient, la lampe à la télévision samedi soir 20h40 en direct. poésie, artistes, des auteurs, compositeurs, interprètes présentent leurs créations, leurs chansons eux-mêmes et seront jugés par vous en direct et également par un jury. Et puis entre-temps, il y a des masterclass présentées par Leïla Kadour-Boudadis. C'est sur le canal 14 de la TNT et hier tu as
à
reçu...
À 20h, je vais vous faire deviner en son simplement si je vous dis accordéon et italien.
Claudio.
Ah oui, c'est...
Claudio Capeo était notre mentor hier. On a parlé avec lui de l'univers artistique, comment le travailler, comment le cultiver. Et lui, c'est vrai que cet instrument avec lequel il a commencé à 6 ans jusqu'à ses 13 ans pour faire une petite pause métal, pour reprendre l'accordéon, parce que le métal, c'était bien pour séduire les filles. Il a fait du métal sans l'accordéon.
L'accordéon aussi, si on veut séduire des vieilles dames.
Oui, mais lui, il voulait pas ça à l'époque, vraisemblablement. Et quel est son rapport justement à cet instrument?
Mais on est toujours ensemble, après je l'emmène pas partout parce que tu sais, il est lourd, c'est pour la composition, il est chiant. Tu vois, il m'aide vraiment à créer des mélodies, à trouver des belles mélodies parce que pour là-dessus je me sens à l'aise, je suis plutôt bien. Après, dès qu'on veut aller un peu plus loin, le piano m'aide à écrire parce que tu peux avoir ta feuille en face de toi, tu passes avec l'accordéon comme ça, c'est toujours comme un coup qui marche pas quoi, c'est un truc. Bon, faudrait un pupitre géant.
Alors cultiver sa patte, c'est ça, c'est l'accordéon. Mais sauf que quand Claudio veut prendre un peu ses distances avec cet instrument, le public, lui, il le redemande.
Il y a beaucoup de gens dans le public qui m'ont dit, putain Claudio, quand même, c'est l'accordéon, quoi. T'es un accordéon, quoi. Pourquoi tu nous fais pas valser, quoi? Putain, tu fais chier, quoi. Donc là, il revient vachement plus. Tu vois, il y a le nouveau show qui arrive et il y a beaucoup plus d'accordéon.
Tu t'es dit, faut que je le donne au public.
Ouais, et puis parce qu'il me fait du bien, au final, tu sais. Je pense qu'on était juste un peu fâchés, quoi. Et finalement, tu vois. Et puis j'avais plus trop envie de le travailler, en fait. Hein, je sais pas. Tu sais, avec toutes les promos, les trucs et tout, je l'ai mis un peu de côté, quoi.
Relation un peu parfois compliquée avec cet instrument.
Il y a un vrai contact physique en termes de vibration aussi, de l'avoir collé à soi.
Et lui dit que parfois il se sentait nu quand il chantait sans son accordéon. En tout cas, il est revenu aussi sur ses débuts. Ça n'a pas toujours été simple, surtout comment on est rémunéré pour se produire devant du public.
Bon, on était payé à la merguez, donc c'est tout sûr. C'est vrai,
on était vraiment payé à la merguez.
À la merguez, spaghettis, sans sauce tomate.
D'olive, et encore, c'est pas sûr. C'était de temps en temps.
Mais nous, tout ce qu'on voulait, c'était avec nos potes. On voulait jouer, on voulait se tirer de la baraque pendant un week-end et puis faire de la musique, quoi, tout simplement. Faut pas écouter tout ce que les gens disent, en fait. Faut juste faire ce qu'on est, ce que l'on est réellement et ce qu'on a envie de faire, quoi. Et puis, bien sûr, on sera jamais aimé par tout le monde. Hein. Et puis, tant mieux, sinon ce serait, je serais con.
Ça serait peut-être le meilleur conseil à donner à de jeunes artistes, ne pas forcément écouter ce que les autres disent. Qu'est-ce que vous en pensez, Arnaud?
Il faut croire en soi et puis foncer, quoi, de toute façon.
Mais quelle est la frontière entre ne pas écouter ce que les gens disent et suivre des conseils pour s'améliorer?
Il faut savoir être ouvert aux autres, mais c'est surtout quand tu y es, en fait. C'est quand tout d'un coup t'es là qu'il faut continuer de bien écouter les autres et les gens avec qui tu travailles, parce qu'il y a des artistes qui écoutent plus du tout ce que les gens qui les entourent, qui sont plutôt bienveillants et qui essayent de faire en sorte que ça tienne la route et qui n'écoutent plus. Et là, c'est l'ego qui prend le dessus. Alors là.
Oui, mais là. Alors, pareil, même question. Quelle est la frontière entre l'ego et l'intime conviction?
Je suis d'accord. C'est vrai. Il faut avoir se dire que. Mais je sais pas. Je pense que quand il y a l'intime conviction, c'est un truc que tu peux pas. C'est en toi et tu dis. Je sais que j'ai raison. Et
donc c'est pas de l'ego.
Donc c'est pas de l'ego, mais en tout cas c'est. Non, mais ce que je veux dire, c'est que je sais que j'ai raison. C'est que à mon avis, c'est que là c'est la bonne. Et quand tout d'un coup tu doutes un peu, c'est qu'il faut mieux commencer à écouter les autres.
Et c'est vrai, c'est important d'avoir Tom Villa parce que ça rassure.
Et ce soir, on accueille Vincent Delerme, mon mentor aussi. Oh,
très bien. 20h sur le canal 14 de la TN. Leïla Kadour-Boudadis dans les masterclass de The Artist en direct samedi soir. Et en direct samedi soir avec Gaëtan Roussel, Pascal Obispo, Benabar et les Black Eyed Peas qui partageront la scène avec ces jeunes artistes. Oui. Justement, à propos de partager la scène, vous êtes seul en scène avec That's Life, Arnaud Ducret, mais vous partagez également la scène quand vous jouez Tendre et Saignant.
Oui.
Sous la direction de Christopher Thompson, vous partagez la scène avec Géraldine
Bellas.
Voilà, vous faites
formidable.
Quel personnage?
Je joue le rôle de le père de Géraldine est bouché. Elle est fâchée avec lui et moi je suis un des apprentis de Feu, puisqu'il nous a quitté il y a pas longtemps. Pardonnez-moi, j'ai un énorme Stevenin. Voilà, pardonnez-moi.
Donc le film a été tourné quand?
On l'a tourné il y a 2 ans.
Ah ouais, carrément.
Ah oui, c'est ça en fait. On devait le sortir avant et c'est.
Mais ça sort quand alors?
Ça sortira en mars 2022. Jean-François Stevenin, merci beaucoup. Pardon, excusez-moi. Qui était super. J'ai adoré jouer avec lui et voilà. Et il y a, elle, comment dire, tourne le dos à cette profession qui est la profession de boucher. et elle va être obligée de reprendre l'affaire avec moi parce que son père va décéder et voilà et il y a une histoire qui va elle est dans la mode donc c'est deux mondes qui s'affrontent mais surtout voilà on va montrer aussi qu'on peut être bouché faire nourrir les nos concitoyens les Français et aussi faire les choses avec beaucoup de respect et c'est un bah, très très beau film c'est un très beau film et
tendre et saignant
ouais je suis très fier de ce film vraiment j'ai hâte. J'ai hâte que ça
et
sorte.
Et Pierre, un moment assez particulier, vous jouez avec votre fils, Oscar.
Oui. Ah oui, j'ai joué avec mon fils, oui.
Visiteur du futur.
Ah, le Visiteur du futur de François Descraques, c'est un film de genre. C'est des mecs qui ont cartonné sur le net avec cette série. Et c'est arrivé sur France 4 pendant un moment. Et une pyramide production a décidé d'en faire un film. Et c'est une comédie de genre avec des zombies, fin du monde. Et mon fils dedans fait un des gamins du terrier, où les enfants se sont, voilà, ont appris à, un peu à la Mad Max. Vous voyez ce que je veux dire?
Et ça, c'est un kiff pour un papa de jouer avec son fils.
Ah, c'était génial. Ah là là, j'ai des souvenirs. Ben, ça, c'est des trucs que tu peux pas rattraper. Donc, en fait, quand t'es avec ton gamin et que ton fils il part en tournage, que tu l'emmènes, que tu vois que ton gamin qui fait des scènes, à un moment il vient me voir, il fait papa, papa, on a fait une explosion parce qu'il y a un robot. Enfin, et on a fait une explosion, puis nous on devait sauter et tout. C'était incroyable. Alors, il y a un moment il vient me voir, il fait ouais, j'en ai marre, je veux rentrer, je veux manger, je veux prendre. Un... Donc, puis bon, quand t'es sur, un, quand t'es... alors je ne le force jamais, hein, mais je lui dis quand même, attends, t'es là, et t'es, je te rappelle que t'es payé. Ah bon d'accord. Et donc en fait, je lui dis, mais ce qui est génial, c'est que tout d'un coup, je vais partager. Il y a un moment, il y a une scène avec moi où il me dit un petit truc, et c'est extraordinaire. De
vivre ça.
De capter ces moments. Ah ouais. Ah ouais.
Scène que vous partagez également avec lui à la fin de That's Life. Des excuses à présenter, Daniel.
Désolé pour nos auditeurs historiques qui ont connu Jacques Chancel, Pierre Bouteiller, José Arthur, Macha Béranger, encore Pierre Desproges, et qui, en ce mardi 21 septembre à 11h26 précisément, ont entendu cette sentence aussi implacable que définitive.
Le PC de rire.
Alors, sacrément salopé cette antenne, hein, depuis la création de la bande originale. Désolé pour notre invité Arnaud Ducret, qui, on le sait, est un pro des bruitages, un pro, mais qui ne maîtrise pas le bruitage le plus magique du monde. Alors, spécialité du maître en la matière, le bruitage du beurre qui fond dans la poêle, signé Nagui. Oh là 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 là, quel talent. Désolé pour nos auditeurs un peu âgés qui ont trouvé que le rythme de l'émission...
Je peux faire la flamme qui se démarre.
Juste après. Ah, pas mal. Ouais. Était beaucoup trop speed ce rythme avec Arnaud Ducret. Alors c'est vrai, ça va vite, mais attention, attention, Hartung, demain ce sera bien pire. On reçoit Dédé Dusselier.
André Dusselier, André. Demain sera notre invité en effet. Merci Arnaud Ducret d'être venu et bravo pour That's Life au Théâtre de la Gaîté Montparnasse, puis en tournée en l'année prochaine à partir du mois de janvier. À très
merci.
Vite.
Merci.
Passez une bonne journée sur Inter. Voici les carnets de campagne de Philippe Bertrand.